Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat dans le cadre des rencontres des pensées de l'écologie de Cluny. Je suis Anne-Caroline Jombeau, membre du collectif de l'Auberge de la Croix-Blanche. C'est un ancien relais de poste du XVIIIe siècle qui est en cours de transformation à Châteauneuf, en Saône-et-Loire, donc non loin d'ici, et qui va être transformé en lieu de culture et de convivialité. Et l'auberge est partenaire de ces rencontres. J'ai longtemps été journaliste. Voilà, pendant 15 ans, dans la presse locale à Lyon, j'avais cofondé un hebdomadaire qui s'appelle Lyon Capital, qui a subi vraiment beaucoup de vicissitudes que peuvent vivre des médias indépendants. Et puis, j'ai travaillé 5 ans à Libération, et puis comme pigiste pour pas mal de médias. Aujourd'hui, je fais partie d'une association culturelle qui accompagne aussi les médias, puisqu'on a un incubateur de médias émergents. Et on fait partie d'un réseau soutenu par Europe Créative, par les fonds européens, de structures culturelles et médias indépendants. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde, donc autour des menaces qui pèsent sur les médias et la liberté d'informer et les moyens d'y faire face. Je suis là depuis l'ouverture des rencontres et j'ai été frappée par le fait que dans chacune des rencontres à laquelle j'ai pu assister, la question des médias était évoquée. Donc je crois que c'est assez nouveau. Enfin, moi, c'est la première fois que je suis frappée par le fait que aussi bien les intervenants que le public en fait aussi renvoient des interrogations, des questionnements relatifs au champ médiatique. Alors très brièvement, mais après je ferai peut-être un petit panorama, mais ces menaces, elles sont de plusieurs ordres, principalement économiques, avec à la fois la question des plateformes numériques qui siphonnent le contenu des médias d'une part, voilà, sans partage de valeur souvent suffisamment, et capte non seulement notre attention, mais aussi les ressources publicitaires au détriment de la presse d'information. Et puis aussi un phénomène de concentration des médias aux mains d'industriels qui ont fait fortune dans d'autres domaines d'activité, ce qui pose voilà, un certain nombre de questions. Voilà, évidemment, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, Bernard Arnault, Daniel Kretinsky et d'autres. Des menaces aussi qu'on peut qualifier d'idéologiques, avec l'offensive de milliardaires comme Pierre-Édouard Sterrin qui mène ouvertement une guerre culturelle qui passe aussi par l'information, avec un projet qui s'appelle Périclès et dont l'acronyme est assez éloquent puisqu'il signifie « patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste ». Voilà. Qui a racheté Valeurs Actuelles et qui soutient de nombreux influenceurs aussi. Des menaces d'ordre juridique, enfin en tout cas une insuffisante protection voilà, juridique peut-être à la fois apportée aux journalistes, lanceurs d'alerte et ça, mais aussi des stratégies d'utilisation de la justice qu'on appelle procédure Bayon, notamment pour épuiser les journalistes et les médias. Donc on va essayer voilà, autant que possible. Je sais que l'enjeu il est élevé, et puis c'est un enjeu démocratique qui n'est pas mineur, hein, d'envisager des stratégies pour faire face à cette offensive de médias et influenceurs qui sont porteurs d'un agenda à peine caché de réaction et de post-vérité. Donc pour débattre de cette problématique, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Taillé-Polian, voilà, qui est députée Génération, et qui a mené bataille quand même à l'Assemblée nationale, notamment en portant un projet de loi, mais vous l'expliquerez qu'il y a d'autres aussi combats que je pense que vous menez, visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant les aides d'État, de l'État. Voilà, qui est un projet de loi qui a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale en septembre 2023. Sophie Lemaître, aussi, également, qui est juriste, autrice de « Réduire au silence comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG ». Voilà, donc tout est dans le titre. Non, mais voilà, il est quand même très explicite et vraiment dans notre sujet. Et nous attendons, alors voilà, je dois aussi préciser que Pierre Jacquemin, qui est directeur de la rédaction de Politis, devait être avec nous ce matin, mais il a dû déclarer forfait pour cause de Covid. Et voilà, nous avons sollicité une journaliste qui intervient cet après-midi sur une autre table ronde. Il s'agit de Laure Nouala, qui a longtemps aussi été reporter à Libération et qui est journaliste indépendante aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va très vite nous rejoindre. Voilà. Et j'imagine aussi que, je sais que par exemple, pour avoir parlé avec vous, Dominique Martin Ferrari, vous êtes aussi ancienne journaliste et vous allez pouvoir aussi possiblement témoigner aussi des menaces qui peuvent peser sur les médias. Peut-être que parmi vous aussi, je ne sais pas dans quelle mesure, il peut y avoir aussi des journalistes ou des gens qui ont participé à des rédactions qui pourraient aussi en témoigner, mais on essaiera de faire circuler le micro, puisque voilà, en plus on n'est pas si nombreux, donc ça peut bien s'y prêter. Mais pour démarrer, je ne voudrais pas être trop longue, mais je vais quand même faire un petit panorama des menaces qui pèsent sur la presse et la liberté d'informer. Je vais m'appuyer peut-être, alors je suis désolée parce qu'il n'est pas possible de projeter des documents, c'est souvent mieux, voilà. Mais bon, je vais le faire oralement. Je vais m'appuyer d'abord sur le classement de la liberté de la presse dans le monde établi par Reporters sans frontières. Le dernier date de 2025, voilà, il est tout récent, et qui nous alerte depuis plus de 10 ans sur la dégradation globale et constante de la liberté de la presse dans le monde. En 2025, il y a une nouvelle ligne rouge est franchie, puisque pour la première fois, les conditions d'exercice du journalisme sont jugées difficiles, voire très graves, dans la moitié des pays du monde, et satisfaisante dans moins d'un pays sur 4 seulement. Le classement, je précise que le classement porte sur 180 pays. Donc, en fait, il réalise, je ne sais pas si vous connaissez ce document, il réalise une carte de la liberté d'expression dans le monde. C'est dommage qu'on ne puisse pas la projeter, mais voilà, c'est parce que c'est intéressant de voir que le rouge est quasiment omniprésent désormais. Oui, puisque dans 42 pays, ce qui représente aussi, c'est intéressant de le souligner, plus de la moitié de la population mondiale, la situation est jugée très grave. Donc la moitié de la population mondiale est dans un contexte où la situation pour les médias et la liberté d'expression est jugée très grave. Évidemment, donc c'est quasiment des pays où la liberté de la presse est totalement absente et où exercer le métier de journalisme est dangereux. Je vais citer évidemment la Palestine où depuis plus de 18 mois, voilà, l'armée israélienne a tué près de 200 professionnels de l'information, dont au moins 43 dans l'exercice de leur travail, encore tout récemment, avec un journaliste français. L'indicateur économique du classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et il atteint un niveau critique inédit. Par exemple, aux États-Unis, il dévisse de 14 points et désormais, certaines régions deviennent... Le rapport qualifie de désert informationnel. Or, d'autres études ont pu mettre en évidence une corrélation entre la montée des républicains du trumpisme et l'affaiblissement, voire la disparition de la presse locale et régionale. L'un des facteurs de dégradation du score économique, qui est celui qui est vraiment le plus alarmant, c'est la concentration de la propriété des titres qui constitue une menace pour le pluralisme. Dans 46 pays, la propriété des médias d'information est très concentrée, voire entièrement aux mains de l'État. Alors évidemment la Russie, qui est à la 171e place, où les médias sont sous contrôle de l'État et où d'oligarques proches du Kremlin. Je vais citer également la Hongrie, puis c'est intéressant, c'est important, c'est un pays qui est en Europe, où le gouvernement à la fois a une stratégie d'asphyxie des titres critiques ou indépendants à travers notamment une distribution inéquitable de la publicité d'État. Il faut savoir qu'en Hongrie, en fait, après avoir transformé l'audiovisuel public en organe de propagande, un certain nombre de médias privés ont été repris, réduits au silence ou rachetés, repris grâce à des manœuvres politico-économiques. Et désormais, en fait, il y a un consortium qui contrôle 80% du paysage médiatique et qui est évidemment dirigé par un proche de Orban, proche du Fidesz, au sein de la fondation Kesma. Et ce consortium regroupe 500 médias nationaux et locaux. Donc c'est vraiment un exemple de concentration qui est quand même très frappant. pour la, je signale aussi que Giuliano Dampoli, dans Les Ingénieurs du Chaos, raconte que Jair Bolsonaro, lorsqu'il a été élu à la présidence de la République au Brésil, a envoyé son fils en voyage d'études au Brésil pour voir, prendre de la graine un peu, pour voir comment les médias avaient été mis au pas. Voilà, j'arrive à la France, voilà, qui occupe la 25e place de ce classement, donc qui a perdu 4 places depuis l'année dernière, essentiellement à cause des raisons économiques dont j'ai rappelé que, voilà, qu'elles intervenaient un petit peu dans beaucoup, beaucoup de pays, puisque désormais une part significative de la presse nationale est contrôlée par quelques grandes fortunes, pardon. Donc 11 milliardaires qui détiennent 80% de la presse quotidienne généraliste, 60% de la part d'audience en télé et la moitié des audiences de la radio. Donc parmi eux, évidemment, Bernard Arnault qui détient Les Échos, Le Parisien aujourd'hui en France, dont il a été question que peut-être il bascule dans l'escarcelle de Bolloré, L'Opinion, Radio Classique, Rodolphe Sadé, donc qui détient BFM TV, RMC, La Tribune, le groupe La Provence, et qui vient de faire l'acquisition tout récemment du média Brut, donc un média en ligne, voilà, qui a une certaine audience. Vincent Bolloré, qui détient Canal+, CNews, Paris Match, après l'avoir récupéré de Bernard Arnault, Europe 1, le JDD, Prisma Média, donc Prisma Média, c'est 1100 salariés, premier groupe de presse magazine en France, Femme Actuelle, Capital, Voici, Géo, leader de la presse télé aussi avec Télé Loisirs, Télé Deux Semaines. Et là, donc 4 ans après leur achat, on rentre un peu dans le dur, on sort du groupe Prisma Média, puisque déjà, d'ores et déjà 200 des 400 journalistes ont fait valoir leur clause de cession. Et là, voilà, les organisations syndicales évoquent une offensive réactionnaire de Bolloré sur Prisma Média avec la nomination de Serge Nedjar, qui est le patron de CNews, comme directeur des rédactions du groupe de magazines. Voilà, et je signale aussi que ça ne concerne pas que les médias, puisque Bolloré est en cours d'acquisition aussi du groupe UGC, les cinémas. Donc c'est vraiment une bataille des récits aussi plus large. On peut évidemment évoquer aussi l'édition, voilà, la culture. Alors je précise aussi que ces trois, Arnaud, Bolloré, Saadé, ont racheté aussi une école de journalisme, l'école supérieure de journalisme de Paris, et qui a aussi une stratégie à l'œuvre du côté de la formation et aussi de l'incubation. Voilà, comment aussi on accompagne des projets médias. C'est le cas notamment de Pierre-Édouard Sterrin, mais je vais venir. Je vais citer un dernier milliardaire, c'est Daniel Kretinsky, qui porte assez bien son nom, je trouve, mais c'est personnel. Donc, il détient Marianne, elle, franc-tireur, qui a renforcé sa participation au sein de Libération. Mais le capital est intouchable parce qu'il est logé dans un fonds de dotation. Voilà. Dans le champ de l'édition, qui a fait l'acquisition aussi d'Editis, et plus récemment aussi de T18, une nouvelle chaîne sur la TNT. Il y a un nouveau venu aussi dans le paysage. Dans ce paysage, je l'ai évoqué, c'est Pierre-Édouard Sterrin qui, en 2024, a essayé d'acquérir Marianne. Il a cherché également à placer son bras droit, Alban de Rostu, à la tête du groupe Bayard. Bayard Presse, c'est quand même un groupe hyper important. Voilà, indépendant, La Croix, plein de titres aussi dans le domaine de la jeunesse. Ces deux tentatives se sont heurtées à la résistance des rédactions et des salariés qui ont réussi à faire échec à sa stratégie. Donc il a racheté Valeurs Actuelles et surtout il investit beaucoup dans l'espace numérique en finançant des jeunes médias en ligne comme Néo ou Lou. Je ne sais pas si vous connaissez Lou, mais c'est un média qui touche pas mal la jeunesse. Et donc c'est des médias qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Il a une boîte de production de vidéos très virale, supposément drôle, mais que je trouve absolument flippante. Ça s'appelle Les Films à l'arrache. Et voilà, il finance aussi... il apporte en tout cas un financement à 45 influenceurs d'extrême droite qui dépassent tous le million de vues par mois. Voilà. Et ensuite, j'ai cité d'autres éléments du rapport de RSF. Évidemment, l'indépendance de l'audiovisuel public, qui est fragilisée par l'absence de financement pérenne depuis la suppression de la redevance audiovisuelle en 2022. Et puis, voilà, les attaques extrêmement violentes dont... dont l'audiovisuel public est l'objet, c'est quand même et qui a amené à, aussi bien Delphine Ernotte de, que enfin ils ont qui a amené qu'ils ont amené quand même à réagir, voilà, assez de façon assez véhémente. Voilà, et le rapport pointe aussi des lacunes quant à la protection des sources des journalistes. On aura l'occasion d'y revenir avec Sophie Lemaître. Et puis un contexte aussi, voilà, de défiance envers les journalistes qui se traduit aussi ces années par des attaques verbales, physiques, notamment lors de rassemblements politiques ou contre la politique du gouvernement, parfois dans le domaine sanitaire ou social. Et les journalistes sont de plus en plus la cible d'attaques physiques et en ligne de la part aussi de mouvements extrémistes. Également, voilà, on pourrait aborder aussi la question de... Il est arrivé aussi qu'il fasse l'objet de violences policières. Et voilà. Donc, j'ai dit beaucoup de choses déjà. Et peut-être pour commencer, je vais vous demander si dans ce panorama que j'ai essayé d'esquisser, vous avez envie de compléter ou d'ajouter des choses. Ou, voilà. Sinon, on rentre dans le... comme vous voulez. Allez-y, donc.
Merci. Ah, ça marche, très bien. Merci marche. Beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Sophie Taillé-Polian, je suis députée du groupe écologiste et social du Val-de-Marne. Je me suis retrouvée, sans crier gare, en 2022, happée par la question des médias, parce qu'un des premiers actes politiques d'Emmanuel Macron à l'ouverture de son deuxième quinquennat, qui je pense... il va postuler pour le quinquennat le plus incroyable de l'histoire de notre pays. A débuté par la suppression de la redevance de l'audiovisuel public. Et donc finalement, en tant que députée, désignée par mon groupe pour être membre de la commission culture éducation, voilà. Donc on a commencé comme ça, et depuis, en fait, on s'est jamais arrêté sur ce sujet. Donc les menaces telles que je les vois, enfin, vous les avez citées, et juste, je voudrais les replacer finalement dans une sorte de causalité. C'est-à-dire que d'abord, si on a une capacité aux grands milliardaires à mettre en œuvre la concentration organisée, voulue, qu'ils sont en train de mettre en œuvre, et organisée y compris entre eux. Hein. Parce qu'il y a quand même des endroits où ils investissent ensemble. Ils se disent il faut une presse d'opinion, on va se diviser le gâteau, donc il y aura ceux d'extrême droite, il y aura ceux de droite, et puis après il y a les médias indépendants dans leur bac à sable, mais Rodolphe Saadé incarnant ça, Bolloré aussi, et puis se mettre d'accord en fait, hein, ils se partagent le gâteau quelque part, hein. Mais s'ils peuvent le faire aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a une crise du modèle économique des médias, et ça je pense que c'est vraiment, donc si on veut aussi lutter contre la concentration, bien sûr, et j'y reviendrai certainement dans la suite, il faut légiférer, mais il faut aussi essayer de trouver des solutions à cette crise du modèle économique qui est principalement lié à la fuite du financement des médias par la publicité, la publicité est partie d'après l'ARCOM va continuer de partir de manière encore importante pour financer les parties des journaux, pour les financer, et de la télévision à Internet. Et donc les modalités de financement qui étaient quand même très liées aux recettes publicitaires se sont écroulées progressivement, et donc ont fragilisé énormément un modèle qui n'était pas déjà hyper florissant, hein, ça c'est sûr, justifie entre guillemets, hein, enfin je le justifie pas, mais les rachats, le fait que voilà, et ces prédateurs qui ont vraiment des moyens incroyables construits par ailleurs pour Bolloré sur le sang et les larmes d'Afrique notamment, voilà, se repèsent de ça parce que c'est à vendre. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, de se dire comment est-ce qu'on fait pour que le modèle économique des entreprises de presse, des éditeurs, puisse être affermi. Pour ça, bien sûr, il y a la question de la régulation des plateformes et de faire en sorte que les contenus qui sont utilisées par ces plateformes pour faire du clic, relayer, etc., etc., et notamment donc les contenus produits par des journalistes, soient rémunérés. C'est toute la question des droits voisins qui n'est pas du tout réglée encore aujourd'hui et qui fait que bon nombre d'œuvres de l'esprit créées par des journalistes eh bien, restent non rémunérées. Hein, lues par des gens. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de lier les deux. Voilà. Ouais. Après, bon, vous avez énuméré les menaces. J'en rajouterai pas d'autres. Ça fait déjà un bon paquet.
Ce qui m'intéresserait aussi, c'est parce que j'indiquais en ouverture que voilà, c'est un sujet qui a été abordé dans toutes les tables rondes. Donc on sent qu'il y a vraiment une préoccupation. Est-ce que il y a eu plusieurs initiatives et notamment une commission d'enquête sur la concentration des médias en France qui a eu lieu en 2022, oui, à peu près, au Sénat. Il y a aussi eu une initiative qui s'appelle les États généraux de l'information, initiative aussi du ministère de la Culture, de l'Élysée aussi, qui s'est déroulée en 2023-24. Est-ce que vous avez le sentiment que ça devient un sujet de préoccupation nationale ? Vraiment, enfin, en tout cas, on sait que les citoyens ils sont de plus en plus sensibles, mais est-ce que ça devient réellement un sujet de préoccupation nationale ? Est-ce qu'on se donne les moyens de s'en saisir et de trouver des solutions ? Ou est-ce que...
Alors, on ne se donne pas les moyens, en tout cas au niveau de l'État, de s'en saisir et de trouver des solutions, puisqu'on préfère... et Rachida Dati en a été l'exemple... Alors, peut-être qu'elle va être reconduite, en s'acharnant sur l'audiovisuel public au lieu de mettre en œuvre les propositions issues des États généraux de l'information. Donc oui, je pense que c'est... je pense que l'opinion publique, est bien consciente qu'on a un problème grave. Et après, il y a deux possibilités. Il y a des gens qui ne font plus du tout confiance et qui donc ont décidé que tout ce qui ressemble de près ou de loin à du journalisme n'est pas digne de confiance, est à rejeter, on nous ment, etc., etc. Et donc vont chercher de l'information sur les réseaux sociaux ou... il y a un problème de confiance. Il y a une crise de confiance à laquelle résiste mieux le service public que les autres médias, parce que c'est quand même en France aujourd'hui c'est le service public qui a le meilleur taux de confiance, mais c'est en baisse. Donc ça, c'est la première partie des gens. Puis une deuxième partie des gens qui ont conscience qu'il y a une action, une des politiques publiques à mener, et citoyennes notamment par l'émergence des médias libres, le fait de les soutenir, le fait de se dire ça coûte de l'argent. Donc, si je suis un citoyen, une citoyenne qui souhaite être informée, je ne peux pas me laisser happer par le tout gratuit qui a commencé par les journaux gratuits dans les métros et puis qui s'est poursuivi avec Internet. Produire une information de qualité, vérifiée, recoupée, avec des services d'investigation, ça coûte de l'argent. Donc, il faut, et c'est à la fois un bien indissociable de la démocratie. Donc il faut à la fois de l'argent public, des aides à la presse, mais données de manière conditionnée pour vérifier que, et aussi le citoyen doit se dire, si je veux une information de qualité en laquelle je puisse avoir confiance, que c'est pas l'actionnaire qui écrit, qui fait la conférence de rédaction, etc., l'abonnement reste quand même une chose, pour celles et ceux qui peuvent encore le financer. Donc je pense qu'il y a ces deux choses qui sont aujourd'hui dans notre société et que les écologistes, la gauche, nous devons vraiment porter haut et fort des nouvelles politiques publiques, une nouvelle législation de grande ampleur pour lutter contre la concentration. La loi est obsolète pour essayer de faire en sorte que le modèle économique soit rééquilibré en faveur des éditeurs, des journalistes, notamment je parlais des droits voisins, doivent réguler les plateformes et pas seulement de mettre en place la transparence de leurs algorithmes, mais aussi la régulation de la façon dont les contenus sont proposés. Il y a beaucoup de choses à faire. Cette grande loi, elle était censée être issue des États généraux. Il y avait beaucoup de choses assez positives. Ce qui est d'ailleurs fou, c'est que dans l'Assemblée nationale actuelle, moi, je travaille beaucoup là-dessus, donc je discute avec les collègues des différents groupes politiques, bon, hors Rassemblement National, qui s'intéressent à ce sujet. On est peu nombreux, mais donc on se parle. Mais je pense qu'il y a une majorité dans cette Assemblée nationale pour, je dirais pas faire le grand soir, loin de là, mais au moins avancer, poser des choses. Et ce refus de Madame Dati, missionnée par Monsieur Macron, d'agir, et le fait de toujours reporter, en étant dans une sorte de carotte et de bâton. Laissez-moi faire sur l'audiovisuel public et après on aura la loi sur les états généraux, donc on a refusé ce genre de chantage, montre que par ailleurs, c'est possible aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'avoir une majorité sur un texte qui au moins fasse un peu progresser les choses. Et donc il y a un refus clair et net de l'exécutif de mettre sur la table ce projet de loi et de privilégier la fusion de l'audiovisuel public ou holding, enfin peu importe. On pourra y revenir si vous voulez sur ce projet de loi. Quand même, on a gagné là-dessus pour l'instant. Mais pour l'instant. Quand même, c'est pas des victoires, on n'en a pas tant que ça.
Mais on reviendra aussi sur les différentes propositions qui sont issues à la fois des états généraux, mais aussi d'un travail aussi porté par les organisations professionnelles et syndicales qui ont aussi beaucoup contribué. Je précise, il y a aussi qu'il y a eu des contre-états généraux de l'information qui s'appelaient les états généraux de l'information indépendante, qui ont aussi apporté un certain nombre de propositions très intéressantes. Donc c'est à la fois c'est tous les médias indépendants aussi comme Mediapart, Politis justement qui aurait dû être là, Socialter, et il y a le fonds de la presse libre aussi pour une presse libre qui coordonne aussi tout ça, mais on y reviendra. Peut-être donner la parole à Sophie Lemaître, puisque en fait j'ai été assez rapide, j'ai plus parlé de pression économique que je suis pas allée dans le détail un peu de ce qu'on appelle les procédures Bayon et le lawfare, parce que je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce lawfare, comment on peut qualifier, enfin expliquer ce que sont ces procédures Bayon?
Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler du lawfare, je voudrais revenir sur les entraves et les menaces, parce qu'on a beaucoup parlé des menaces économiques, mais ce n'est pas que ça. En 2024, 67 journalistes ont été assassinés à travers le monde. C'est le recensement que Reporters sans frontières a effectué, et ça, c'était dans le cadre de leur travail. En Europe, on a eu des assassinats de journalistes. Il faut se rappeler, en 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée. Quelques mois plus tard, en février 2018, c'était le journaliste slovaque Jan Kuček avec sa compagne qui ont été assassinés. On a eu aussi des assassinats en Grèce et aux Pays-Bas. Donc c'est important de dire que les journalistes, le métier de journaliste, c'est l'un des métiers les plus dangereux au monde, avec celui de la profession d'avocat. Les avocats qui défendent les journalistes quand ceux-ci sont attaqués. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête. Et puis en termes de menaces, qu'on retrouve aussi, ça va être bien sûr les arrestations, les gardes à vue, le cyberharcèlement, bien sûr la surveillance, la destruction de matériel, du cambriolage, des disparitions forcées, des kidnappings. Si je pense par exemple au Burkina Faso, vous avez des journalistes qui vont parler de la corruption du régime ou bien des exactions commises par le régime qui en fait sont kidnappés, ils sont enlevés, on les retrouve sur le front pour combattre le djihadisme, enfin l'État islamique qui est lutté contre le terrorisme. Donc à travers le monde, la presse est menacée de différentes manières. Et si on revient au niveau européen, on a un organisme qui s'appelle le Media Freedom Rapid Response qui quantifie un peu les violations qui existent en Europe à l'encontre des journalistes. En 2020, ils avaient recensé 290 violations. En 2024, ce sont 942 violations. Donc on voit qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus les journalistes sont attaqués. Donc à nouveau, agression verbale, agression physique, surveillance, etc. Dans le top 3 des pays où on retrouve le plus de violations à l'encontre des journalistes, on a l'Allemagne, l'Italie et la France. Donc on voit aussi en termes de menaces contre les journalistes, en France, la situation elle est grave. On va avoir dans les prochains mois des données encore plus détaillées et granuleuses, puisqu'on a l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, qui effectue ce recensement des différentes menaces qui pèsent contre la liberté de la presse en France. Les menaces en France, qu'est-ce qu'on a ? Ce sont des agressions verbales, ça représente à peu près 50% de ce qui a été recensé en 2024. Des interférences, par exemple, des journalistes qui vont être interdits d'événements. Je pense que ça, on a tous entendu certains journalistes qui ont été interdits de participer à des meetings politiques notamment. Et puis on a aussi tout ce qui est incident juridique, et c'est là où je viens répondre à la question sur le lawfare. En fait, au-delà de toutes ces menaces qui sont visibles, par exemple, Morgane Large, une journaliste bretonne, s'est vue les roues de sa voiture qui ont été déboulonnées. Daphné Caruana Galizia, la journaliste maltaise, avant son assassinat, sa maison a été incendiée par deux fois. Ses chiens ont été égorgés. Donc, il y a tout cet ensemble de menaces, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre forme, c'est les attaques juridiques qui sont... peut-être un peu moins visible que ces agressions physiques, verbales, cette surveillance, ces arrestations, mais qui ont des effets tout aussi dévastateurs que ces menaces. Et en fait, on utilise un terme, les anglo-saxons utilisent un terme pour désigner ces attaques juridiques, et ils utilisent le terme de lawfare. Lawfare, c'est quoi ? C'est une contraction entre law et warfare, et qu'on traduit en français par la guerre par le droit. Donc en fait, comment le droit devient une arme pour réduire au silence les journalistes, mais pas que, pour réduire au silence toute voix qui dérange et qui publie des informations sur des sujets d'intérêt public. Le lawfare, en fait, ça a plusieurs dimensions. L'une de ces dimensions, c'est les poursuites Bayon. Et je crois que la question, c'était qu'est-ce que les poursuites Bayon ? Donc, je vais revenir un instant. Une des dimensions, c'est les poursuites Bayon. Mais c'est aussi, par exemple, des États qui vont utiliser les législations pour empêcher les journalistes de faire leur travail. On pourra, j'imagine qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors, sur les poursuites Bayon, eh bien, les poursuites Bayon, en fait, les Anglais, ils utilisent un acronyme qui s'appelle SLAP, avec deux P, à ne pas confondre SLAP avec un P, qui veut dire une gifle, mais prendre une poursuite Bayon, finalement, c'est comme se prendre une gifle en pleine face. Et une poursuite Bayon, en fait, c'est une procédure qui a toutes les apparences d'une procédure classique légitime. C'est une poursuite en justice, c'est normal en France, ailleurs, dans toute démocratie, si on a l'impression que nos droits n'ont pas été respectés, si on a l'impression qu'il y a eu un atteinte à notre réputation, eh bien c'est normal de pouvoir attaquer et de poursuivre. Là où ça ne l'est pas, c'est lorsque ces poursuites, en fait, elles ont pour objectif d'empêcher les journalistes de publier l'information sur des sujets d'intérêt public, comme la corruption, c'est ce sur quoi je travaille notamment, et l'environnement, mais la santé ou les questions de violence sexiste et sexuelle. Il n'existe pas en fait de définition unique à l'heure actuelle de poursuite Bayon. On utilise un certain nombre de critères pour savoir si on est face à une poursuite Bayon. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? Déjà, on regarde s'il y a eu une forme de communication publique. Un article, une expression, là je suis en train de parler, une prise de parole, un communiqué de presse, et si ça porte sur un sujet d'intérêt public, donc je disais corruption, environnement, santé, droits des personnes vulnérables, précarité, etc. On regarde le déséquilibre des forces entre la personne qui poursuit et le journaliste. Et souvent, on voit que ça va être des milliardaires qui vont intenter des actions en justice. Par exemple, le groupe Bolloré a intenté une vingtaine d'actions de poursuite en justice ces dernières années, même si là, récemment, depuis 2-3 ans, il y en a beaucoup moins. Mais voilà. Et ce n'était pas qu'en France, c'était aussi à l'étranger. Il y a eu des poursuites au Luxembourg, en Belgique, etc. On s'intéresse aussi au montant des dommages et intérêts. Est-ce que des dommages et intérêts élevés sont demandés ? Un exemple, Casino avait poursuivi la lettre A en diffamation et demandé à la lettre A 13,4 millions d'euros de dommages et intérêts. Mais on peut aussi voir...
Ça se rapproche de ce que demande Trump aux médias.
Oui, alors je crois que Trump, on est plutôt sur des milliards,
des
on est
milliards,
plutôt sur
oui.
15 milliards.
Non, mais toute proportion
demandées...
gardée, on s'en rapproche.
Oui, il y a d'autres exemples. Alors, ces poursuites Bayon ne touchent pas que les journalistes, mais juste pour faire une petite digression, par exemple l'ONG Bloom, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur les questions de pêche d'océan. Pardon ?
Et Greenpeace.
Au Greenpeace aux États-Unis, là je reste sur la France. Bloom est poursuivi actuellement en dénigrement par le comité national et départemental des pêches et 12 autres comités régionaux et départementaux. Et 600 000 euros de dommages et intérêts sont demandés à l'association Bloom et la plainte a été posée au mois de juin. Mais oui, Greenpeace, mais bon, je reste sur les journalistes. Donc on regarde voilà les montants des dommages et intérêts. Parfois vous avez des entreprises pour dire que non, c'est pas une poursuite Bayon, vont demander 1 € de dommages et intérêts, 1 € symbolique. Donc c'est pour ça on ne regarde pas que le montant, on regarde ces différents critères. On va s'intéresser aussi à est-ce que le plaignant va multiplier les recours, est-ce qu'il va demander sans arrêt des reports, est-ce qu'il va faire durer la procédure, et est-ce qu'il va multiplier les recours, c'est-à-dire est-ce qu'il va lancer des actions au civil, au pénal, d'un point de vue administratif. Donc tout ça, ce sont des critères qu'on regarde pour déterminer si on est face à une poursuite Bayon. Et pour reprendre l'exemple de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, au moment de son assassinat, elle faisait l'objet de 48 poursuites en diffamation, 43 au civil, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier quand même, 43 au civil et 5 au pénal. Donc, voilà. Et là, à l'heure actuelle, ses héritiers, donc, son mari et ses enfants sont toujours en train de se battre parce qu'en droit maltais, en fait, la famille hérite des poursuites du défunt. Et donc, à l'heure actuelle, il y a encore, donc c'était en 2017, on est en 2025, il y a toujours une poursuite qui est en cours. Donc ces poursuites Bayon, en fait, l'objectif, ce n'est pas de gagner le procès. D'ailleurs, dans pas mal de situations, le plaignant se désiste la veille ou voire même le jour même du procès. Un exemple, Inès Leroux qui a été poursuivie pour diffamation avec le média Blast par l'entreprise Cheritel. C'était à la suite d'un article qui était publié sur un possible... C'était sur du travail non déclaré. Et en fait, Cheritel s'est désistée le jour du procès. Donc on voit, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de gagner. En fait, l'objectif, c'est de vous épuiser financièrement parce que en fait, ça coûte une procédure en justice. On estime pour une procédure en diffamation que c'est entre 3 000 et 15 000 euros. Donc ça représente un budget conséquent pour des médias indépendants. Un an de grandeur, Mediapart prévoit à peu près chaque année 250 000 euros pour faire face aux frais de justice. Mediapart, c'est très grand, mais la plupart des médias n'ont pas ces moyens-là pour pouvoir faire face aux procédures Bayon. Donc, voilà, c'est vous épuiser financièrement, mais aussi moralement, émotionnellement, vous empêcher de faire votre travail parce que pendant toute la durée de cette procédure, ben vous préparez votre dossier, vous préparez votre défense et vous n'êtes pas là pour enquêter sur la corruption, sur les pollutions environnementales, sur des atteintes aux droits humains.
Si je peux apporter juste un complément, c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu en tant que journaliste, c'est d'autant plus difficile en fait quand on devient journaliste indépendant. D'avoir le courage de mener un certain nombre d'enquêtes sans avoir la protection d'une rédaction un peu solide. Et je trouve que la précarisation croissante en fait, des journalistes fragilise vraiment beaucoup cette capacité à mener des enquêtes d'intérêt public. Parce qu'en fait, on n'a pas les reins assez solides, en fait. Et quand on n'a pas, et heureusement que Mediapart, il y a des rédactions comme celle-ci qui peuvent aussi assumer ce risque, mais c'est de plus en plus difficile, en tout cas pour tous les reporters journalistes indépendants, de pouvoir s'engager, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, ça envoie un message aux autres. Donc, ça vous impacte, vous. Mais du coup, ça va dissuader les autres d'enquêter, de reprendre votre travail et se dire, oula, est-ce que je veux me confronter à ça? Parce que, en fait, c'est la procédure, elle est très lourde, elle est longue. Surtout si vous êtes poursuivi en diffamation, vous allez être automatiquement mis en examen. La mise en examen, quand même... Elle est lourde de sens. Après, on va parler de vous comme prévenu. Et c'est sûr que l'entreprise qui vous poursuit ou le milliardaire ne va pas manquer l'occasion sur les réseaux sociaux et dans sa communication de dire que tel journaliste, tel média a été mis en examen, que c'est un prévenu. Donc ça rajoute, c'est un poids supplémentaire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est essentiel d'en parler. Alors à un moment donné, on voit une évolution. Les journalistes, au début, ne parlaient pas trop des poursuites auxquelles ils étaient confrontés parce qu'il y avait la peur qu'il y ait des représailles supplémentaires. Mais en fait, d'en parler, ça permet de générer du soutien. Et je vais mentionner le média breton Splan qui, en fait, au printemps, a fait l'objet d'une poursuite en diffamation par une figure de l'industrie porcine. Et donc, Splane a fait une campagne, lancé une campagne de financement participatif. Et il me semble qu'ils ont récolté 60 000 euros. Et là, dans ce cas, en fait, la procédure a été annulée pour des irrégularités. Et donc, voilà, on a vu qu'il y avait un soutien massif du public pour aider et soutenir les journalistes face à ces procédures.
Moi, j'avais une question. En vous écoutant, j'ai le sentiment que vous avez pris plusieurs exemples qui, quand même, relèvent du champ de l'environnement, de l'écologie. Enfin, voilà. Est-ce que beaucoup, quand même, enfin, on a parlé après de Bloom, de Greenpeace. Là, l'exemple de Splane, c'est aussi face à l'industrie porcine. Est-ce que les journalistes et médias qui couvrent les enjeux écologiques, les sujets de l'écologie, sont particulièrement la cible de ces procédures, enfin, de ces intimidations? Je ne sais pas comment les qualifier.
Oui, tout à fait. En fait, au niveau européen, il y a une coalition qui s'appelle CASE, la coalition européenne contre les poursuites Bayon. Et ils ont recensé le nombre de poursuites Bayon au niveau européen. Entre 2010 et 2023, ils ont recensé 1049 poursuites. La France est le troisième pays où on retrouve le plus de poursuites Bayon. Toute personne poursuivie confondue, c'est-à-dire pas seulement les journalistes, les associations, etc. Et dans les statistiques qu'ils ont trouvées, il y a deux secteurs où on est le plus à risque. C'est lorsqu'on travaille sur les questions de corruption et sur les questions environnementales. Après, moi, je travaille sur ces deux questions, donc forcément, mes exemples sont beaucoup sur ces sujets-là. Mais quand vous travaillez sur les questions de violences sexistes et sexuelles, vous êtes aussi sujet à des poursuites. Je pense notamment à une journaliste qui n'avait même pas encore écrit, publié. Elle avait écrit son article, mais son article n'était même pas encore publié, qu'elle s'est retrouvée convoquée au commissariat parce que la personne qui faisait l'objet de l'article avait déposé plainte en diffamation et l'article n'était pas publié. Donc elle s'est retrouvée au commissariat à devoir répondre aux questions sur un article qui n'était même pas accessible. Donc en fait, il y a plein de domaines, mais vraiment la corruption et l'environnement, ce sont deux secteurs où c'est les plus dangereux, où les journalistes sont les plus assassinés et sont les plus menacés et font l'objet de plus de poursuites Bayon.
Et j'avais une question aussi, parce que corruption, environnement, je sais que souvent ce sont des sujets qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Enfin, je sais que forcément, enfin voilà, et il y a des consortiums de journalistes européens qui se sont constitués pour justement mener un travail de fond, d'enquête sur des sujets de corruption ou voilà, d'atteinte à l'environnement. Mais comment ça se passe aussi parce que je crois qu'il est possible aussi de subir des attaques non seulement de son propre pays, mais voilà, d'être poursuivi à l'étranger.
Oui, c'est une autre caractéristique, un autre des indicateurs pour savoir si on est face à une poursuite Bayon, c'est si est-ce que vous êtes poursuivi à l'étranger. Et dans le monde, en fait, le Royaume-Uni, on peut le dire, c'est un paradis des poursuites Bayon. Donc il y a de nombreuses procédures qui vont avoir lieu au Royaume-Uni pour différentes raisons. D'abord, les frais de justice sont très élevés, notamment les frais d'avocat. Il faut compter à peu près 1000 livres de l'heure pour un avocat, donc forcément, c'est extrêmement dissuasif. Ensuite, c'est très facile d'initier une action en justice au Royaume-Uni. Il n'y a pas besoin d'y vivre. Il faut simplement démontrer un lien. Donc, par exemple, il y avait un média suédois qui a publié Realtid, qui a publié en suédois à propos d'un businessman norvégien. Sur une entreprise en Norvège, et le businessman vivait à Monaco. Il a déposé plainte au Royaume-Uni en disant que en fait ça portait atteinte à sa réputation en Angleterre. Et en fait, au Royaume-Uni, ils ont considéré qu'effectivement ils avaient juridiction, alors que l'article n'était pas disponible en anglais mais seulement en suédois. Donc oui, c'est possible d'être poursuivi à l'étranger, et ça rajoute du coup un stress supplémentaire, parce qu'il va falloir que vous trouviez un avocat spécialiste du pays. Vous ne connaissez pas le système juridique, donc la pression, elle est double. Et pareil, on a des statistiques. En Europe, elle représente à peu près 9% des poursuites, donc c'est pas énorme. En fait, la plupart des poursuites Bayon, elles sont locales, c'est-à-dire par exemple franco-françaises. Mais on a en France, on a par exemple la PLAF, qui est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui défend les lanceurs d'alerte d'Afrique, qui a fait l'objet d'une menace de poursuite au Royaume-Uni avec l'ONG britannique Global Witness, à la suite d'un rapport qui avait été publié en français et en anglais au sujet d'un homme d'affaires israélien qui avait des... qui possédait des mines en République démocratique du Congo. Donc voilà, on peut avoir toutes ces dimensions-là et ça rajoute un poids supplémentaire.
Merci, merci beaucoup pour toute cette intervention, en plus très précise, chiffrée, etc. Je reviens vers vous, Sophie, pour revenir sur ce qu'il est, enfin, les possibles moyens d'agir, notamment quand on est une parlementaire comme vous. Vous avez porté au moins un projet de loi. Plusieurs. Enfin, du coup, moi, j'en ai un en tête, le plus récent peut-être, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur quel point, en fait, se sont axés vos combats, quel soutien vous avez pu obtenir, en tout cas, enfin, au sein des parlementaires, et au final, voilà, ce qu'il en est sorti.
Alors la bataille est en cours, je dirais. De toute manière, on est dans la situation actuelle que vous connaissez et dans la crise politique que nous traversons et qui connaît de multiples soubresauts, de multiples épisodes. Il est difficile de penser les choses à trop court terme. Mais il y a effectivement un certain nombre de lois, enfin de réglementations qui doivent évoluer. Et donc on y travaille, je dirais un peu avec opiniâtreté, on lâche pas l'affaire. Le sujet étant tellement important et grave pour la démocratie, effectivement, en tout cas pour ma part, je suis pas du tout dans une posture de travailler qu'avec la gauche, mais d'aller au-delà pour essayer de trouver des majorités. Donc la première chose à faire, à mon sens, c'est effectivement d'agir sur le modèle économique des médias, comme je le disais tout à l'heure. On y était presque, puisqu'il y a un collègue Modem qui avait déposé une proposition de loi sur les droits voisins pour faire en sorte que les journalistes puissent bénéficier en juste retour des revenus publicitaires que les plateformes obtiennent parce que elles permettent d'accéder à ces contenus. Donc les droits voisins, ça existe déjà, mais c'est extrêmement limité, c'est extrêmement opaque. Donc il y a beaucoup d'enjeux là, beaucoup d'enjeux financiers pour faire en sorte que les droits d'auteur, en réalité, soient respectés et que donc les éditeurs et les journalistes qui produisent l'information puissent être rémunérés pour leur travail lorsqu'il est accessible sur une plateforme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu des avancées assez récentes, mais qui ne sont pas du tout généralisées et qui sont des accords de gré à gré. Donc vous pouvez avoir des grandes plateformes qui du jour au lendemain disent bon bah finalement c'est terminé. Et puis c'est très opaque, puis donc tout le monde n'y a pas accès, etc. etc. Alors qu'il y a aujourd'hui les outils pour dire voilà, il y a tant de fois où cet article, ce contenu a été vu, ça fait tant de sous pour l'éditeur. Et donc après, il y a la question aussi, et j'y souscris totalement à ce que vous avez dit. De la situation sociale, en fait, des conditions d'emploi et de rémunération des journalistes qui sont essentielles. Donc, il y a un deuxième enjeu dans l'enjeu, c'est aussi que les éditeurs donnent leur juste part aux journalistes qui ont produit. Ça, c'est des batailles aussi syndicales qu'on voit beaucoup dans les médias quand les éditeurs touchent les droits voisins. Mais dans plein de moments, ils ne les touchent pas. Donc ça, c'est quand même essentiel. Et il y a aussi, par exemple, le fait que les aides à la presse n'aillent pas aux médias qui sont possédés par les plus grands actionnaires, les plus grands milliardaires, sans aucune condition. Évidemment, la conditionnalité des aides, on en parle pour toutes les aides aux entreprises, mais je crois que sur la question des aides à la presse, on est particulièrement dans des aides qui ne sont pas, qui ne s'appuient pas sur ne serait-ce que le fait de respecter la déontologie journalistique. Moi, je ne vais pas plus loin que ça, hein. Les chartes qui régissent depuis quand même pas mal de temps le métier de journaliste, est-ce qu'elles sont respectées ou pas ? Comment on peut le savoir ? On peut le savoir, par exemple, s'il y a la part de journalistes dans la masse salariale. Parce que si on n'emploie que des producteurs de contenu ou voilà, ou des gens qui recopient des dépêches AFP à la sauce de l'opinion du journal, ou s'il y a des journalistes, il y a de l'investigation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ça peut être le fait de conditionner au droit d'agrément, c'est-à-dire à la mise en place de dispositifs pour étanchéifier la relation actionnaire-rédaction. Donc ça, c'est aussi la troisième chose. La troisième chose, c'est donc d'aider à ce que les actionnaires, les possédants des journaux ne puissent pas, ils définissent une ligne éditoriale, ça on ne peut pas non plus les en empêcher, c'est normal, c'est leur média dans la presse écrite. Mais par contre, après, la mise en œuvre doit être faite selon les règles déontologiques. Et c'est là l'enjeu de l'étanchéité. C'est-à-dire que les journalistes qui sont embauchés sur la base, dans un média qui a une ligne éditoriale, puissent la mettre en œuvre, mais dans le respect de la déontologie journalistique. Donc on m'a souvent traité de stalinienne et de tout ce qui s'ensuit parce que je voulais que l'ARCOM reprenne, reprenne le canal qui était dédié à C8, ce qu'il a fait, et à CNews, ce qu'il n'a pas fait. Mais c'est pas parce que je veux pas de médias d'opinion. Je veux dire, les médias d'opinion sont essentiels aussi à la démocratie. Mais juste, la télévision, on s'est toujours dit que la télévision, c'était pas le lieu des chaînes d'opinion. Il y a les médias, maintenant il y a les journaux, évidemment il y a la presse écrite historiquement, et il y a aussi, bien évidemment, l'Internet là, qui permet nettement. Donc ça, c'est la troisième chose.
Peut-être juste là-dessus, parce que je pense que c'est important, une précision, c'est qu'effectivement, quand on parle de pluralisme, on parle de pluralisme externe pour ce qui est de la presse écrite, c'est-à-dire que le pluralisme, il est garanti par la diversité.
Par le foisonnement.
Le foisonnement, la diversité des lignes éditoriales, etc. Et pour ce qui est des médias audiovisuels, on parle de pluralisme interne, ce qui veut dire que normalement, au sein des médias audiovisuels, il devrait y avoir une diversité de points de vue. Est-ce qu'il y a le cas dans le service public ? Parce que les chiffres le montrent clairement. Ce qui est beaucoup moins le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un certain nombre de médias audiovisuels privés où on est plus dans le champ de l'opinion que de l'information.
Donc ça, c'est absolument, absolument essentiel. Donc étanchéifier. Et puis étanchéifier donc, les liens entre les actionnaires et les rédactions. Il y a d'autres choses aussi, bien sûr, qui sont la lutte contre la concentration, la révision de la loi de 1986, qui est totalement obsolète. En 86, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les plateformes, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc bon, on est sur une catégorisation qui aujourd'hui n'a plus de sens entre les médias, entre les journaux quotidiens, les hebdomadaires. Enfin, aujourd'hui, toutes les rédactions fonctionnent comme s'ils étaient, fonctionnent en flux tendu en fait, parce que tout le monde a un site où l'information elle continue d'être traitée, même si on est un hebdomadaire et qu'on sort en kiosque tous les jeudis. Les articles ils sortent tous les jours et le site internet il est abondé tous les jours. Donc en fait, on a aujourd'hui des catégorisations dans la loi de 86 qui sont totalement n'existent plus, en fait, sont plus du tout dans le réel. Donc moi, j'ai déposé une proposition de loi sur l'étanchéité dont je vous parlais tout à l'heure avec le droit d'agrément. J'ai déposé une proposition de loi aussi, là, il y a une semaine, sur... alors, vous ne la trouverez pas sur l'Assemblée nationale, sur le site, parce que comme le bureau ne s'est pas réuni, il y a besoin d'une validation administrative par le bureau de l'Assemblée nationale pour que les propositions de loi soient accessibles. Mais bon, si vous m'écrivez par mail, je vous l'enverrai. Mais donc une proposition de loi sur la concentration, contre la concentration, donc qui se base sur les comptes rendus des travaux des États généraux pour faire en sorte que ce soit non pas le type de média, mais la part d'audience, la part dans la fabrique de l'opinion publique, y compris en prenant en compte pas seulement les médias d'information générale, mais aussi l'édition. Et il y a un autre sujet aussi derrière, qu'on n'a pas réussi à traiter encore, mais on va le faire. C'est la question de la concentration aussi avec les officines de gestion de la publicité. Donc bien sûr, c'est très bien si un journal a sa propre régie pub, parce qu'il peut rester maître de qui lui met de la pub. Mais par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est aussi une concentration des régies pub, avec des immenses régies pub, qui travaillent pour tous les médias, et devinez à qui elles appartiennent. Et donc, on peut avoir directement des rétorsions avec « puisque t'es pas gentil, puisque tu es woke, puisque tu es etc., t'auras pas les pubs ». Voilà. Donc, il y a tout cet enjeu de la concentration. Et Donc là, il y a vraiment urgence. Vous avez parlé des rachats en cours. Il y a aussi challenge, hein, avec un très très fort risque et l'opinion d'avoir toute la presse économique aux mains de Bernard Arnault.
Sur la concentration, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que moi, souvent, je trouve qu'on nous oppose un argument. Quand il y a des propositions pour essayer de réguler, en tout cas, ou de limiter la concentration en instaurant des seuils, etc. On nous oppose souvent l'argument « Ah oui, alors vous voulez créer des nains dans un paysage où il n'y a que des géants, et en fait, la bataille, elle est perdue d'avance, en fait. » Et donc, avec cette vision, enfin cette perspective qui serait si nous on ne crée pas nous-mêmes des géants, en fait on ne va pas y arriver, et voilà, et je trouve que c'est un argument qui est souvent opposé
C'est vrai, c'était l'argument qu'on nous opposait pour la réforme de l'audiovisuel, en disant il faut rassembler les forces, parce que nous on aime l'audiovisuel public, donc parce que pour faire face aux plateformes, etc. Mais de toute manière, nos groupes nationaux n'arrivent pas en termes de budget, alors je n'ai pas les chiffres en tête là, au quart du tiers de la moitié divisé par 12 des budgets des grandes plateformes. Donc, et puis, si aujourd'hui Netflix a fini par accepter de produire des œuvres audiovisuelles en France, etc., et d'adhérer quand même un peu au système de financement, c'est parce qu'il y a bien vu qu'il y a un marché national. Il y a un marché national de l'information, un marché local de l'information qui est totalement... il y a un marché national pour aussi faire de l'international. Hein, mais c'est pas seulement que c'est le marché, entre guillemets, de l'information uniquement locale, mais il y a une capacité à analyser ensemble sur la base d'un commun culturel. Voilà, donc tout ça, c'est pas viable. Et puis d'autre part... En réalité, tous ces projets de médias dits 360, c'est-à-dire où on a les journaux, la radio, les télés avec les mêmes présentateurs, donc en fait on a une façon de mettre en avant des marques et des noms qui, peu importe le canal, en fait ça c'est un modèle économique de réduction des coûts. C'est pas un modèle économique de qualité d'information ou d'intérêt de la production de ce
Alors,
qui est audiovisuel. C'est
de vraiment qualité d'information, mais d'amplification de l'information.
Oui.
Parce qu'on voit bien que ça fait caisse de résonance. Quand
ça
même,
fait caisse de résonance, ça réduit les coûts. Parce que quand vous avez une grande affiche dans les rues des villes avec Sonia Mabrouk, vous faites à la fois la pub pour CNews, pour Europe 1, pour je sais pas quoi. Pour plein de choses. Donc en fait, c'est des modèles de réduction des coûts. C'est pas des modèles d'amélioration de la qualité. Alors oui, il faut des incarnations, bien sûr. Il faut des gens qui incarnent des lignes éditoriales. Il faut, Mais on peut en avoir plusieurs, et on peut avoir aussi des incarnations qui sont pas au nombre de 5 ou 6 pour tout. Voilà. Mais c'est important. Après, je voudrais terminer sur l'audiovisuel public, si vous me le permettez. Et non, ça va, parce que je serais obligée de partir à 11h, donc mes excuses. Mais l'audiovisuel public a fait l'objet quand même de multiples attaques organisées et tout à fait orchestrées, même, je dirais, hein, puisque M. Pro a dit que sur CNews, il allait en parler tous les jours. Donc il fait campagne, sur un espace public, il fait campagne, sur un média où on est censé être sur le pluralisme interne, donc tous les points de vue, etc. Il fait campagne contre l'audiovisuel public, il fait aussi campagne pour la pétition de M. De Villiers, donc il milite, moi j'ai rien contre le militantisme, hein. je le fais depuis longtemps, depuis mes 18 ans, donc, mais en tout cas, c'est pas normal qu'il puisse le faire sur un canal, un espace public financé par le public, attribué par le public. Donc l'audiovisuel public, pour résister à ça, il faut qu'il soit, un, financé, et deux, il faut qu'il change dans sa gouvernance. Parce qu'on se retrouve souvent bien embêtés, entre d'un côté des gens de droite qui pensent que toutes les personnes qui travaillent dans l'audiovisuel public sont de gauche, etc. Et les gens de gauche qui disent, oui, mais ils pensent et ils le disent, hein, tout le temps. D'extrême gauche même, hein, c'est tout le monde, hein, même Dominique Seux. Donc. Et puis des gens de gauche qui disent que de toute façon, ils ne se reconnaissent pas dans l'audiovisuel public non plus. Ils disent, ah, il y a ci, il y a ça. Donc, moi, je trouve que tant que personne n'est content, c'est que finalement, le travail n'est peut-être pas si mal fait. Mais moi, je ne m'autorise pas à donner... Puisque je dis qu'il faut l'indépendance du service public de l'audiovisuel, je ne vais pas commencer à dire ce qu'il faut mettre à l'antenne et ce qu'il ne faut pas mettre. Par contre, Je trouve que, un, la première chose à faire, c'est de changer la façon dont les programmes sont conçus et le faire avec les agents, plus, beaucoup plus. Par exemple, faire venir des incarnations du privé alors qu'il y a énormément de talents au sein à Radio France. Moi, je ne comprends pas. Donc, avec les gens qui travaillent. Et deuxièmement, avec les auditeurs et les usagers. Et ça permettrait d'éviter que les directions soient prises entre deux feux. Et deuxièmement, ce qu'il faut, c'est du courage. Parce que ces sociétés, elles ont plutôt essayé, face aux attaques de l'extrême droite qui n'ont cessé de monter en puissance et qui vont continuer à monter en puissance, elles font le dos rond. Elles effacent les trucs les plus abrasifs, les contenus, les émissions les plus piquantes, etc. On polie tout ça pour essayer d'éviter de passer entre les gouttes. Mais en fait, c'est aussi cette capacité à faire le débat qui plaît dans le service public. Hein. C'est pas juste parce que c'est le truc qui intéresse, enfin, qui est, où tout le monde est d'accord, donc qui n'intéresse personne. Du courage, il en faudra aussi à l'ARCOM. Et là, moi, j'ai auditionné le président de l'ARCOM récemment et on va se rencontrer. Mais je trouve que l'ARCOM n'est pas au rendez-vous pour faire en sorte que les cahiers des charges qu'ils signent avec les éditeurs, et notamment CNews, soient respectés. Depuis la reprise, ça ne s'est pas vu à l'antenne hein, parce qu'il y a eu continuité, mais il y a eu un nouvel cahier des charges qui a été signé. Donc on a redonné l'antenne à CNews et depuis le 8 août des propos racistes d'un niveau d'une ancienne ministre, depuis la pétition de Villiers qui est relayée, c'est signé, hein. Enfin je veux dire on est vraiment dans le militantisme pur, l'utilisation de l'antenne pour une campagne contre les concurrents de l'audiovisuel, je vous passe le procès de Nicolas Sarkozy avec un bandeau entre guillemets, Nicolas Sarkozy, un procès politique, c'est même pas point d'interrogation. C'est deux points, procès politique. C'est comme ça que... Voilà, donc, et là, le président de l'ARCOM, c'est en cours d'instruction, mais nous, on peut pas, en fait, on prend les trucs un par un. Oui, mais là, il y a une continuité, il y a comme la fois d'avant, il y a une volonté de faire exploser, en fait, le débat français et de complètement le dénaturer pour le polariser. Enfin, vous connaissez toute la logique, Fox News, etc., etc. Et donc, face à ça, voilà. Et moi, je trouve que c'est une autorité indépendante, ils font ce qu'ils veulent et moi, je prends acte. Mais je ne comprends pas, je continue à ne pas comprendre les positions qui sont prises par ce collège de 9 personnes. Et je pense que finalement, on en vient à penser qu'ils sont en train d'essayer de contourner la décision du Conseil d'État de février 24 pour ne pas avoir à la mettre en œuvre. Décision qui, je le rappelle, demander à l'ARCOM de ne plus surveiller si le pluralisme était respecté juste quand il y avait des personnalités politiques, mais que le pluralisme soit respecté sur la longue durée, en fait, sur un mois de programme et en intégrant aussi les différents intervenants, non pas pour les fichiers, mais c'est facile de voir si sur un plateau tout le monde est d'accord et l'animateur aussi, ou s'il y a du débat et si tous les intervenants sont respectés dans leurs paroles ou s'ils ne le sont pas. Ça n'empêche pas une ligne éditoriale. Donc ça, visiblement, pour l'instant, l'ARCOM n'est pas au rendez-vous. Et je pense que de toute manière, dans la période, ce qu'il faut, c'est un peu de courage parce que le péril est là. Et dans les médias, on sait qu'on est en première ligne avec la science, la culture, bien sûr, et d'autres secteurs qui seront directement menacés. On le voit dans les pays où l'extrême droite arrive aux affaires.
Alors j'ai vu une main se lever, donc on commence à prendre des questions de la salle.
Pardon, je me permets d'intervenir sur le pluralisme parce que je pense que c'est ce qui est au cœur du débat actuel et d'aujourd'hui. Je pense qu'on vient de loin, d'abord parce que dans le service public, le pluralisme, c'était avoir un pour et un contre. Et malheureusement, on a casser la vie publique à cause de ça. Moi, je suis donc journaliste spécialisée dans l'environnement et je peux vous dire que, par exemple, la lutte sur le réchauffement climatique a été brimée parce qu'on donnait toujours la parole contre le règlement, et contre le dérèglement et que, du coup, le débat en France s'est enlisé pendant des dizaines d'années. Bien, maintenant, je voudrais dire aussi que, par exemple, aux États-Unis, C'est au nom du pluralisme et au nom de la liberté d'expression qu'on muselle la presse. Donc il y a aussi à voir du côté du droit ce qui aujourd'hui peut, le droit date en ce qui concerne l'audiovisuel. Et il y a sans doute des choses qu'il faudrait voir de ce côté. Et je rappelle quand même que la presse française hérite du droit du Conseil national de la Résistance et que c'était contre ce qu'avait imposé l'Allemagne nazie, c'est-à-dire contre une expression unanimiste et soi-disant universelle et absolument plus partagée. Et le Conseil national de la Résistance a remis en place le pluralisme. Et je crois que... Je pense qu'il faut que ce soit ni la droite ni la gauche qui prennent la défense de la presse. La presse doit être et de droite et de gauche en France. Et on a vraiment besoin des deux. Et quand ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'au nom de la liberté d'expression, et c'est ce qui risque quand même de se passer pour nous, au nom de la liberté d'expression, c'est Trump. Et moi, j'ai été effectivement, à l'époque, on n'avait pas tellement de soutien. Quand Basta a été mis je faisais partie des gens qui ont été cités par Bolloré parce qu'on avait fait un papier sur le vol des terres en Afrique et que donc Basta... Alors là, on a connu les procédures Bayon. Moi, j'ai eu du mal à me remettre de mes 8000 euros d'avocat parce qu'il a fallu qu'on se défende. Donc, il n'y avait pas seulement les problèmes de droit à l'information. Là, il y avait vraiment déjà... Le problème Bolloré avait un avocat et multipliait. À l'époque, c'était l'ODI qui gérait et avait dénoncé Bolloré comme étant celui qui nous bâillonnait. Mais regardez, rien ne s'est fait. Et Bolloré, aujourd'hui, possède pratiquement moitié, enfin maintenant, avec ce qui vient de se passer cette semaine, moitié de la presse française. Enfin, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc, il faut absolument réussir à trouver. Et j'avoue que la manière dont on peut réagir, et ce que je conseille, c'est que c'est le collectif. Effectivement, en tant que journaliste indépendante, puis ensuite dans des rédactions, etc., j'ai vu la force du collectif et je conseille le collectif. Et quand je vois par exemple comment maintenant l'ONU avec force au niveau européen peut conduire, j'ai vu comment était conduite la lutte par exemple contre la 69, si on a pu gagner C'est grâce à l'Europe, c'est grâce au collectif, c'est grâce à la manière dont on était organisé. Et si on y était allé en tant que journaliste indépendant, on n'aurait pas gagné.
Peut-être, allez-y.
Non, sur le collectif, en fait, c'est moi, c'est la raison pour laquelle je propose ce droit d'agrément. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des droits individuels, des journalistes, clauses de conscience, etc. C'est très bien. Mais il faut des droits collectifs. Absolument. Et en fait, le fait qu'une rédaction, c'est un collectif de travail qui a son mot à dire sur la façon dont les choses sont organisées, qui a son mot à dire sur le fait de garantir les conditions d'exercice de la profession de manière honnête. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. En plus, ça rentre complètement dans la philosophie globale qui est la nôtre, les écologistes, c'est-à-dire que les salariés, globalement, et les collectifs de travail aient leur mot à dire pour préserver la qualité de leur travail et les conditions de travail qui sont les leurs. Et donc, donner des droits collectifs, c'est très important et c'est une marche supplémentaire. Alors, à un moment donné, dans les discussions, parce qu'on a failli y arriver, mais bon, on ne va pas lâcher, on y arrivera à un moment donné, on a senti que les éditeurs disaient « Ah oui, mais alors, à ce moment-là, on enlève les droits individuels. » Non ! Non, 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 on rajoute des droits collectifs. Attention. Et deuxième chose que je voulais dire, moi, je défends autant, et j'ai fait la proposition de loi sur le droit d'agrément, en soutien aux salariés du JDD. Le JDD, bon, maintenant, on sait ce que c'est vraiment un tract. Mais avant, c'était un journal quand même pas de gauche du tout. Enfin, je veux dire. Et moi, ça ne me dérange. Enfin, je trouve ça très bien, en fait. Et là, je soutiens les salariés du Parisien. C'est pareil, bon, mais c'est très bien. Enfin, il y a pas de problème. Mais d'autant plus que les gens connaissent ces journaux, qui sont des journaux anciens. Donc leur ligne éditoriale ne fluctue pas énormément dans le temps. Les gens savent très bien. Et donc, à un moment, la question, c'est aussi quand même, on prend un, enfin, Bolloré prend un titre. Qui est très connu, qui est très ancré dans la tête des gens sur bah voilà le journal du dimanche c'est ça, Paris Match c'est ça, le Parisien c'est ça, et après il le transforme sans en changer la marque pour pouvoir rendre les idées qu'il diffuse normales et comme ayant une place assez classique dans le spectre politique, alors qu'on sait bien que c'est vraiment les franges les plus extrêmes de l'extrême droite. Donc voilà aujourd'hui ce qu'ils font, et donc moi je défends ça, et je on me dit ah mais est-ce que vous défendriez aussi, ben oui en fait je défendrai aussi tous les journaux, parce que ce qui m'importe moi en tant que législatrice c'est que en fait l'indépendance de la presse soit garantie et que le pluralisme soit respecté, parce que on a besoin d'un débat éclairé pour que les gens puissent se faire leur idée.
Sophie Lemaître, alors après vous êtes libre aussi de rebondir sur les propos qui ont été tenus, mais moi j'aurais aimé aussi vous entendre sur cette question, on ne peut plus rien dire.
Oui, alors, si c'est bon, ça arrive, ok, super. Oui, la situation aux États-Unis, elle est dramatique. Le changement, la rapidité, c'est sidérant. Après, il y a une limite, c'est-à-dire que le système juridique américain n'a rien à voir avec le système juridique européen. Non, mais ça, c'est déjà une chose quand même à voir, rien que par exemple au niveau judiciaire, quand on a effectivement des demandes à plusieurs milliards de dollars aux États-Unis, c'est une possibilité. En France, c'est très rare qu'on ait des condamnations à des montants de dommages et intérêts de ce niveau-là. On a quand même une culture juridique qui est différente. Ensuite, sur la liberté d'expression, la manière dont les États-Unis envisagent ce principe de la liberté d'expression n'a rien à voir avec le nôtre. Et on a quand même la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, la liberté d'expression est importante. Oui, il y a des garanties. Mais attention, il y a les États... Pardon ? Les États, oui, les États. Je vais finir parce que sinon c'est un débat aussi avec la salle. Les États, il y a quand même des propos. Les États ont la possibilité de mettre en place des limites, notamment les limites à la liberté d'expression. Ce qu'on voit, c'est les propos racistes ne sont pas acceptables. Donc il y a quand même un certain nombre de garanties qui existent en Europe qui n'existent pas aux États-Unis. Et ça, c'est quand même important. Je ne veux pas dire que ce qui se passe aux États-Unis n'arrivera pas en Europe. Par contre, je pense que c'est plus en termes de comparaison. Pour moi, il vaut mieux regarder ce qui se passe en Hongrie ou en Italie, parce qu'en termes de système juridique, de culture juridique, on est beaucoup plus proche de nos voisins européens et notamment italiens que des États-Unis. Voilà, je veux dire qu'il faut s'inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis, mais regardons déjà ce qui se passe en Europe, et notamment, on pourra en reparler, mais l'Italie, par exemple, avec Giorgia Meloni au pouvoir depuis 2022, on n'entend pas vraiment parler de ce qui se passe, et pourtant, la liberté de la presse est de plus en plus restreinte. On a le gouvernement, on a appris que le gouvernement avait fait appel à un logiciel espion et avait espionné des journalistes et des défenseurs des droits humains. On sait que Giorgia Meloni a nommé aussi à l'audiovisuel des proches, que sans arrêt, dès que des journalistes critiquent la position du gouvernement, ils se font poursuivre. Il y a des agressions verbales, mais les poursuites bâillon, elles sont systématiques en Italie. On voit aussi que tout ce qui est... institution indépendante, eh bien, elle est en train de saper leur indépendance. Je pense par exemple en matière de lutte contre la corruption, parce qu'en général, on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque à la justice, et notamment à la justice qui travaille sur les sujets de corruption et de délinquance économique et financière. Et elle fait passer des réformes pour décriminaliser certaines infractions en matière de lutte contre la corruption. Les associations se font sans arrêt attaquer, associées, notamment celles qui défendent le droit des étrangers. Donc en fait, on peut, moi je trouve que c'est important de regarder ce qui se passe chez notre voisin, parce qu'on a des systèmes vraiment proches et que, en fait, eux, c'est depuis 2022, on est en 2025, ça fait 3 ans. Et moi, je pense qu'en France, en fait, les changements, et c'est déjà ce qui est le cas, hein, pour moi, on est à un basculement, à deux doigts de basculer, parce que les changements se font petit à petit. Petit à petit, on se fait grignoter nos libertés fondamentales. On est un petit peu, à un autre événement, une personne m'a dit, on est un petit peu comme la grenouille au-dessus de l'eau bouillante et on ne se rend pas compte en fait au fur et à mesure comment on se fait grignoter nos libertés fondamentales, et c'est ça qui va arriver. Il faut vraiment regarder ce qui se passe en Italie, et on peut regarder aussi la faiblesse de la réponse de l'Union européenne, de la Commission européenne. Chaque année, la Commission européenne publie un rapport annuel sur l'état de droit. J'ai lu le rapport sur la Hongrie, sur celui de l'Italie et sur celui de la France. Alors comme c'est la Hongrie, bien évidemment, la Hongrie est ouvertement critiquée par la Commission européenne, quoi, elle ne respecte pas l'état de droit, le droit européen. Par contre, sur l'Italie, c'était très tiède, et sur la France, ça l'était aussi, alors qu'on a des critères objectifs qui documentent les atteintes à la liberté de la presse, les atteintes à la liberté d'association, les atteintes à la liberté de réunion, au droit à manifester, et les atteintes à l'indépendance de la justice.
On reviendra sur le volet européen. Je précise à nouveau que, enfin, je crois que je ne l'avais pas dit, mais Sophie Taillé-Pollion, vous l'avez signalé, vous devez partir plus tôt parce que voilà, le contexte fait que vous devez vite repartir. Il nous reste un quart d'heure avec vous. Donc, je voulais savoir si, dans l'assistance, il y avait une personne qui souhaitait poser une question précisément à Sophie Taillé-Pollion avant qu'elle ne parte. Oui ?
Alors, attendez. Si vous permettez, je crois qu'elle... s'adresse à...
Oui, Sophie, vous étiez la seule à parler des citoyens en disant il y a un début de prise de conscience. Or, tout le débat tourne autour du professionnalisme des journalistes, de l'aspect économique, la concentration, les aspects législatifs. Or, la presse, d'un côté, il y a la production d'informations, et de l'autre côté, il y a des usagers citoyens. Et dans ce débat, il y a un grand manque, c'est comment les citoyens usent, abusent, transforment l'information. Donc, moi, je perçois un grand vide, la place de l'usager. Parce que si on étudie les luttes populaires du XXe siècle, par exemple, où le peuple a gagné de nombreuses luttes, évidemment, derrière les aspects sanglants du XXe siècle, l'aspect de l'information, du partage de l'information était très importante. Et il nous manque vraiment crucialement des éléments autour de... la manière dont les citoyens fonctionnent dans les systèmes d'information. Et donc, vous, comme vous êtes politique, évidemment, vous produisez des lois, mais vous avez forcément aussi un rapport avec la citoyenneté. Je sais bien que c'est un énorme problème, je tenais quand même à le souligner, et la difficulté que, devant ce problème.
Alors c'est sûr qu'il y a un pont qu'on n'a pas abordé aussi, c'est tout ce qui peut relever aussi de l'éducation aux médias et à l'information, qui est quand même un enjeu aussi majeur et qui devrait être une vraie cause nationale. Mais je laisse peut-être, à moins qu'on prend une deuxième question peut-être, si...
Comme ça, je sais pas, j'ai vu monsieur, mais...
Vous êtes la seule personne à avoir employé le mot de groupe.
Alors si vous...
Vous êtes la seule personne à avoir employé le terme de WOC. Et donc, pour peu que je regarde les informations, il y a une attaque contre le wiki. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Si vous pouvez m'expliquer, d'autant que si on parle de ça et que vous n'utilisez pas ce terme-là, je ne sais pas de quoi on parle.
Est-ce qu'il y a éventuellement une autre intervention ? Sinon, je vous laisse répondre.
J'ai utilisé avec 1000 guillemets le vocabulaire de nos adversaires. qui qualifie tout, n'importe quoi. Voilà. Mais si vous voulez, si vous écoutez M. Ciotti, par exemple, quand il, et tous les dirigeants de l'extrême droite, quand ils parlent de l'audiovisuel public, ou M. Ciotti, quand il a parlé, par exemple, il a qualifié de le budget Barnier. Il a dit le budget Barnier, hein, enfin Barrio, c'était à peu près pareil, c'est un budget socialiste. Donc en fait, les mots, même ceux dont on connaît le sens initialement, parce que woke, on ne connaît pas vraiment le sens, mais même ceux dont on... Non mais dans la majorité des Françaises et des Français, le mot woke, on ne sait pas bien ce que c'est. Nous, on sait historiquement, aux États-Unis, tout ça. Mais parce qu'on est un public militant. Mais voilà, socialiste, les gens, ils savent ce que c'est. Enfin, il pourrait y avoir un débat sur ce que c'est. Mais ce n'est certainement pas le budget Barnier. Et ben voilà. Donc, on a quand même aussi le problème de réinvestir les mots. Et donc, eux, ils poussent énormément. Et tout ce qui n'est pas eux est de gauche. De toute façon, c'est clair. Tout ce qui n'est pas eux est de gauche, donc y compris M. Retailleau, hein, évidemment. Donc, je vais répondre sur deux choses. Il y a un truc qui a été dit par Sophie, qui est de dire, nous, quand même, on a le racisme. Quand il y a des propos racistes, ça tombe sous le coup de la loi. Et quand je disais manque de courage, il est là. C'est-à-dire que le 8 août, j'ai retrouvé la... Le 8 août dernier, Madame Noël Lenoir sur CNews dit « Des millions d'Algériens viennent en France qui représentent des risques majeurs » et elle continue en parlant de millions de personnes qui donc peuvent surgir un couteau à la main ou foncer avec une voiture des gens. Et donc elle dit ça sur une chaîne ça, qui est distribuée dans tous les foyers de France. Et il ne se passe rien. Alors si, je veux dire, elle va avoir un procès, j'ai une collègue Sabrina Sebaï qui a fait un article 40, etc. Mais... ça va se reproduire sur CNews puisqu'ils invitent que des gens qui pensent ça. Donc on est effectivement, normalement on est protégé par la loi, mais on a un manque de courage du régulateur pour faire en sorte que, vu que ça c'est pas la première fois et qu'on sait que ce sera pas la dernière, pour faire en sorte que cet éditeur n'ait plus voix au chapitre. Bref, et c'est là que je parlais de courage à un moment donné, d'aller jusqu'au bout de ce que les textes nous permettent de faire pour défendre la liberté d'expression telle que notre définition l'est, c'est-à-dire c'est comme la liberté de circuler, on n'a pas le droit de circuler tout nu dans la rue, on n'a pas le droit de, au nom de la liberté d'expression, de dire n'importe quoi, notamment des choses racistes, homophobes, sexistes, etc. etc. On n'a pas le droit, en fait. Voilà. Donc il faut que ces propos tombent sous le coup de la loi, donc ceux qui les ont proférés, mais aussi les éditeurs qui mettent en place dans l'espace public, je le répète, parce que la télévision, c'est un canal géré par la puissance publique. Ça coûte de l'argent d'entretenir ces canaux TNT. On les confie gracieusement. Donc, créer les conditions pour que la loi ne soit pas respectée régulièrement sur ce canal devrait conduire à l'arrêt du canal. Voilà, c'est ma position. Et il y aurait des bases juridiques pour ça. Et RSF l'a démontré par ses multiples saisine du Conseil d'État vis-à-vis de l'ARCOM. Ils ont recommencé, là, et on est en lien très, très, très net. Alors, je voulais répondre sur la place de l'usager. Pour moi, c'est extrêmement important, parce que, et notamment sur le service public, parce que... et j'irai au-delà aussi, d'ailleurs, finalement, aussi sur ce qui faisait sens commun. On est quelques-uns dans cette pièce à avoir des cheveux blancs et à se dire il y avait un temps quand même, on ne pouvait pas entendre ça à la télé et qu'il ne se passe rien. Il y avait un temps aussi où une présidente de région n'aurait jamais pu couper tous les crédits culture, je pense au Pays de la Loire, sans qu'il se passe quasiment rien. Parce qu'on a un problème de confiance, de remise en cause de ce qui faisait consensus et qui aujourd'hui ne le fait plus. Donc il faut qu'on retrouve avec la majorité des gens une forme de contrat collectif sur pourquoi la place des médias, la place des citoyens dans ces médias et donc notamment dans le service public de l'audiovisuel, puisque celui-ci est financé à hauteur de 4 milliards, un peu moins depuis les macronismes, mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est pas assez, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Donc quelle est leur place? Voilà. Et comment, et c'est pas que la médiatrice de France Inter ou de France Télévisions, etc., mais comment on est vraiment à l'écoute des demandes, des besoins, et c'est pas parce qu'on fait des micro-trottoirs au France 2, aux 20h de France 2, qu'on est en prise avec... Non mais parce que... Voilà. Donc ça, ça me semble absolument essentiel pour refonder. Si on veut défendre le service public de l'audiovisuel, il faut refonder son indépendance, la nomination de ses dirigeants, etc. Donner des droits à la rédaction, tout comme dans le privé. Et il faut aussi inclure dans le conseil d'administration des représentants des sociétés de journalistes, des représentants des organisations syndicales, il y en a déjà mais plus, et des représentants d'associations, d'usagers qui peuvent porter la voix et donc influer sur ce qui est proposé. Et dans la culture, c'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, il y a besoin de refonder ce contrat. Pourquoi, dans notre société, on veut un service public de la culture ? Bah, refondons-le avec les citoyens et citoyennes. J'ajoute quand même qu'il y a aujourd'hui une capacité technique des citoyens, des citoyennes, surtout assez jeunes, de donner leur point de vue et d'avoir un outil de diffusion immédiat que sont les réseaux sociaux, les plateformes. Et ils le font. Mais ceux qui prônent la liberté d'expression sont ceux qui, en fait, mettent au fond, du fond des fils de recommandations tous les contenus qui ne leur plaisent pas. Donc, ceux-là, ils ont vraiment le double discours. Quand c'est leurs idées d'extrême droite, ça, il faut la liberté d'expression. Mais sinon, il faut... Et donc, ils ne mettent pas en place, évidemment, sur leur plateforme. Et on sait bien qu'on parlait de la concentration, mais sur les plateformes, on est bien là aussi. Et donc, notamment Elon Musk, etc. Donc, il faut une régulation des plateformes. Certains disent qu'il faut une transparence. Mais il ne faut pas qu'une transparence, il faut une régulation. Donc là, il y a RSF qui proposait notamment d'obliger à faire remonter les contenus certifiés d'une certaine manière les contenus journalistiques certifiés par des autorités indépendantes, mais il y a des choses à faire pour faire en sorte que on oblige à ce qu'il n'y ait pas des choix éditoriaux faits par les plateformes, ce qui est le cas aujourd'hui, alors même que juridiquement, ils refusent d'être traités comme des éditeurs qui seraient responsables des contenus. Donc, ils disent que ce n'est pas notre faute, mais enfin, c'est quand même eux qui choisissent ce qui arrive dans la barre, dans votre fil de recommandations. Hein. Donc ça, moi, j'ai quand même l'espoir, c'est le foisonnement. Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, veulent devenir journalistes, deviennent journalistes indépendants. Alors, ils ont la foi, ils ont la... Voilà, il faut les aider. Je crois beaucoup, face aujourd'hui, au pouvoir de l'argent et aux forces qui sont face à nous, à la vivacité, au foisonnement individuel. Donc, il faut promouvoir aussi vraiment ça et aider de toute manière dont nous pouvons le faire. Alors, certains mutualisent en plus leurs coûts, etc. Donc, c'est des excellentes initiatives. Le Fonds pour la presse libre et la presse indépendante. Et puis, beaucoup, ils s'organisent entre eux. C'est-à-dire que quand vous voyez... Street Press qui se dit bah moi je vais plutôt me focaliser là et puis Splun qui fait d'autres choses sur la enfin et tous et en fait ils se parlent et ils se répartissent le boulot parce que évidemment l'investigation notamment ça coûte cher et des médias indépendants de petite taille peuvent pas avoir des couvrir tous les enjeux de la société donc on c'est ma touche d'espoir c'est que quand même il y a une vivacité qui est citoyenne parce que si toutes ces personnes ont envie de développer l'information et de se saisir des canaux qui sont quand même à disposition facilement pour construire cette information, cette prise de conscience citoyenne, eh ben, y a de l'espoir et voilà. Et donc, on va continuer le combat. Et je suis désolée
je crois que vous devez devoir vous quitter
pour prendre le train plus tôt que prévu initialement. Mais voilà.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci
Tanier
beaucoup
Pollion.
À vous.
Merci. On va poursuivre l'échange. Je crois qu'il y avait une main qui s'était levée.
Assez basique. Sur, effectivement, madame la députée qui s'en va, là, je voulais... Enfin, il y a plusieurs choses, mais par rapport au fait que vous évoquiez que quand même en France, c'est la suite du CNR, etc., on a quand même dans la Constitution la liberté d'expression. Donc il y a quand même la loi de 86, je pense, sur la concentration. J'aurais bien aimé avoir un éclairage, justement, comment en France, c'est possible que ces milliardaires approchent les 50% de concentration. Si vous pouviez juste nous rappeler les règles, basiquement, des lois de concentration. Et ma deuxième question, c'est que... est-ce que, à la suite des EGI, dont moi je suis pas journaliste, donc j'ai vu les EGI dans la presse, etc., et j'ai vu que c'était quand même une initiative intéressante, est-ce que le gouvernement s'empare des conclusions et est-ce qu'il y a un dépôt de projet de loi au-delà des propositions qui viennent du Parlement, hein, les propositions, alors que les projets, c'est quand même l'exécutif qui, à la suite des EGI, devrait déposer un projet de loi.
Alors, sur la loi sur la concentration, elle date de 86, donc elle met des seuils en fonction de catégories qui n'existent plus. Donc évidemment, il y a d'autres méthodes, notamment à l'allemande, etc., qui peuvent être mises en place pour faire en sorte de réformer tout ça. Donc ça, c'est totalement obsolète. Et ça devrait être fait dans le cadre de la loi sur les EGI, issue des EGI. Mais cette loi, comme je vous l'ai indiqué, on me dit qu'elle est écrite, le projet de loi, qu'il est au Conseil d'État. Mais la ministre redémissionnaire, refuse de le donner. Hein, et même les journalistes qui demandent, etc., en ont des petits bouts, mais n'ont pas le texte ensemble. Donc, et aujourd'hui, je ne sais pas si on ne va pas nous remettre la proposition de loi sur l'audiovisuel public. Voilà, donc on en parle. Les usagers généraux de l'information, on les a attendus un an et demi, parce que c'était un engagement de Macron 22. Ils ont finalement eu lieu parce qu'il y a eu le JDD et que notamment Christophe Deloire, qui je salue la mémoire, le responsable de RSF antérieurement, vraiment poussait, etc. Donc ils ont fini par avoir lieu et puis ça fait un an que les conclusions ont été rendues et que le travail aurait pu être fini en fait. On aurait dû avoir terminé déjà s'il y avait eu une volonté politique. Et je m'en vais. Merci à vous.
Merci. Alors peut-être que moi je vais merci. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Je vais peut-être poser une autre question qui va plus nous amener à l'échelle européenne, puisqu'on ne l'a pas encore abordée, puisque pour le coup, au niveau de l'Europe, il y a eu quand même tout un travail, et notamment à travers Media Freedom Act, le Digital Service Act, mais aussi une directive, je voulais l'évoquer aussi, la directive européenne contre les poursuites Bayon qui a été adoptée, qui a été un pas significatif. Donc ça progresse aussi de ce côté-là. Et je crois qu'on en est en attente d'une transposition au droit national. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Sophie Lemaître ?
Oui, donc bon, dommage, elle est partie. J'aurais rajouté sur sa table de travail la transposition de la directive européenne qui vise à lutter contre les poursuites Bayon. Donc c'est au niveau européen, on parle de poursuites stratégiques altérant le débat public. La directive, elle a été adoptée en mai 2024 et les États membres ont jusqu'à mai 2026 pour la transposer. Actuellement, il y a la moitié des États membres qui sont en cours, qui ont démarré en fait ce travail de transposition. Il y a un État qui l'a fait, c'est Malte. Et en France, donc, les discussions commencent tout juste. Alors, la directive européenne, elle est intéressante à plusieurs égards parce qu'en fait, elle vient proposer un certain nombre de garanties pour lutter contre les poursuites Bayon, notamment la mise en place d'une caution. Donc, en fait, la personne qui va poursuivre le journaliste pourra se voir obligée de verser une caution par rapport aux frais de justice. Ce sera au plaignant de démontrer la charge de la preuve à incomber au plaignant et non pas au journaliste qui devra démontrer qu'il n'a pas diffamé, par exemple. C'est aussi possible qu'il y ait un mécanisme de rejet rapide parce que les procédures, elles peuvent être extrêmement longues. Avant que le procès s'ouvre, il peut se passer un an et demi, deux ans, voire même plus. Donc là, il y aura un mécanisme de rejet rapide. On a la possibilité aussi, si on est poursuivi à l'étranger, comme c'est par exemple le cas de Greenpeace qui a été condamné aux États-Unis à 667 millions de dollars de dommages et intérêts. En fait, Greenpeace a intenté une action aux Pays-Bas, puisque le siège de Greenpeace est aux Pays-Bas, en demandant à activer la protection de la directive européenne qui prévoit qu'en fait, lorsque vous êtes condamné dans un pays tiers, lorsqu'il s'agit d'une poursuite Bayon, on peut mettre un stop à cette, à cette procédure et donc empêcher l'exécution du jugement sur le territoire européen et avoir des mesures correctrices. Donc là, la procédure est en cours, on verra ce que ça donnera. Donc cette directive, il y a des avancées très importantes, mais il y a plusieurs limites parce que cette directive ne concerne que les poursuites en matière civile et commerciale, sauf que en fait, la plupart des poursuites Bayon se passent au pénal et la diffamation en France, par exemple, c'est un délit pénal et non pas civil. Donc ça veut dire que en fait, la plupart des poursuites en France, elles seraient exclues. Ensuite, il faut qu'elles soient de nature transfrontalière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément avec un autre État membre. Or, comme je disais tout à l'heure, la plupart des poursuites, elles sont par exemple franco-françaises. Donc ça, c'est vraiment des limites essentielles. Et donc, ça va être important que dans la transposition française, on aille beaucoup plus loin et qu'on inclue vraiment le pénal, qu'on enlève ce critère étranger et qu'on permette de couvrir, en fait, qu'on couvre toutes les procédures.
Oui, je voudrais dire que c'est hyper important pour l'environnement parce que c'est un point qu'on n'a pas encore comment évoquer, mais il n'y a pas simplement le problème du racisme ou de la politique. Nous, on est surtout en bataille permanente contre les multinationales et notamment contre les multinationales de la chimie. Donc, ce que vous venez d'évoquer est extrêmement important pour l'avenir des investigations journalistiques de l'environnement.
Oui, après la situation politique fait que on va voir s'il y aura une opportunité pour élargir. Et comme Sophie le disait, c'est important, c'est transpartisan. La liberté de la presse, c'est ni de gauche ni de droite. Comme la lutte contre la corruption, c'est ni de gauche ni de droite. Et c'est important que tout le monde s'empare. Malheureusement, à l'heure actuelle, moi je trouve que au niveau politique, on n'entend pas assez de paroles politiques fortes qui viennent défendre la liberté de la presse. C'est l'importance des investigations, de l'enquête, de l'information. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est vraiment essentiel, c'est qu'en fait, c'est nous qui allons payer le prix. Si les journalistes n'enquêtent plus, si les journalistes ne publient plus, ça veut dire que nous, nous n'avons plus l'information. Ça veut dire que nous ne savons pas que telle rivière est polluée, que, par exemple, Nestlé Waters appliquait des traitements dans les eaux minérales, que telle personnalité politique fait du financement illégal ou à détourner des fonds publics, etc. Et donc, nous, mais on ne sera pas en mesure de prendre des décisions et de faire des choix en connaissance de cause. Donc, l'information, elle est essentielle. Et nous, on a un rôle à jouer. Et donc, le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est bien. Et la suite, c'est, si on parlera des actions, c'est aller un peu prendre son bâton de pèlerin et en parler autour de soi, parce que je pense que, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peu de gens qui sont au courant de la manière dont le droit va être utilisé pour empêcher la liberté de la presse, la liberté d'association. Il faut en parler et c'est important qu'on soit nombreux à se mobiliser pour ça.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors on va en prendre plusieurs, je crois. J'ai vu au moins deux mains se lever. Alors, dans l'ordre, monsieur. Non, allez-y.
Oui, très brièvement, vous parliez de la grenouille et de l'eau chaude. Moi, qui n'habite pas en France l'essentiel de l'année et en Amérique latine, je suis frappé à quel point vous baignez dans l'eau chaude sans vous en rendre compte, voire même bouillante, mais venue de l'extérieur. Je doute de l'état de droit en France, donc parler des libertés publiques, ça m'épate parce que ce n'est pas ce que j'observe. Je crois que tout le monde ici peut faire le même constat. Dans ma petite province, quand je viens ici, il y a un journal local, comme il y en a beaucoup, dont le sous-titre serait « Voter à droite ou extrême droite ». Chasseur, bouilleur de cru et ancien combattant. Mais je veux dire que c'est ça en permanence. L'éditorial, je regarde régulièrement, mais c'est vrai du Bien Public, c'est vrai du Courrier de Saône-et-Loire, c'est vrai de l'Est républicain dans le coin où je vais. Donc ça, c'est quelle question de la presse régionale et du pluralisme. C'est vrai par rapport à la TNT. J'ai observé que vous parliez de l'ARCOM, le média n'a jamais été mis sur la TNT alors qu'on a mis Ouest France, qui est un autre journal de droite. Et je pourrais multiplier naturellement les exemples. Se pose la question, évidemment, du modèle économique. Donc se pose la question du capitalisme et de la possession pour les libertés publiques et pour la démocratie des médias et de leur, non seulement pluralité, mais de leur intégrité et déontologie. Donc ces questions-là, elles sont quand même posées. Et puis alors le fait que, c'est ma dernière remarque, de financement public de journaux comme, qui ont été mentionnés, qui sont quand même des journaux de peu de qualité, et dans la possession, Bernard Arnault, Bolloré, tels que Le Parisien, etc., reçoivent des contributions publiques, d'argent public, pour des journaux de cette médiocrité-là. Et donc, moi, je suis quand même très étonné de ça, vu un peu de l'extérieur. Donc, peut-être vous avez une remarque à faire.
Alors, malheureusement, il n'y a plus que Sophie Lemaître comme intervenante, donc elle ne va pas pouvoir, je pense... Voilà, prendre tout, mais on va essayer d'apporter des éléments de réponse. On prend une deuxième question.
Oui, bonjour. En fait, j'interviens comme éditeur. Je suis l'éditeur en particulier de Sophie et de son livre « Réduire au silence ». Ma maison s'appelle Rue de l'Échiquier. C'est une maison d'édition indépendante. Je voulais juste vous dire deux choses sur le monde de l'édition, qui est aussi un média. En fait, on observe effectivement une concentration importante, 70 à 80% de la production éditoriale et le fait de quatre grands groupes, dont Hachette est l'acteur majeur. Mais c'est aussi 80 à 90% du marché du livre, du fait en particulier de leur domination des réseaux de distribution. Vous savez sans doute que les relais qu'on voit dans les aéroports ou les gares ont un quasi-monopole dans ces espaces, et on y voit évidemment en tête de gondole d'abord les productions de ces grands groupes. Et vous voyez sans doute comment Hachette évolue depuis la reprise en main par Bolloré, Fayard qui est devenu une officine de l'extrême droite avec la publication des livres de Bardella, de Ciotti et d'autres. Et je pense effectivement qu'il faut savoir qu'en France, on est protégé dans notre secteur par la loi sur le prix unique du livre, qui fait que vous achetez un livre chez Amazon en relais ou chez votre libraire indépendant, c'est le même prix partout, il faut toujours le rappeler. Il y a 3500 librairies indépendantes en France. Le Jardin Secret, qui est présent à Cluny et qui est présent sur cet événement, vous propose les livres d'éditeurs indépendants, mais pas seulement, évidemment, mais au même prix qu'ailleurs. Voilà, ça c'est un point qui me semble important. Et puis je pense aussi qu'on a tous une responsabilité individuelle, même si évidemment des décisions politiques et juridiques doivent être prises. Je pense à la responsabilité des auteurs. Quand je pense qu'un Pierre Lemaître qui, effectivement, revendique son appartenance à la gauche est publié par Calman Levy, qui appartient à Hachette, quand je pense que Virginie Despentes, qui proclame sa haine des dominations, est publiée par Grasset, et quand j'entends Laurence Bloch, encore plus récemment, directrice de France Inter, dénoncer dans son livre Radioactive le groupe Bolloré et sa prégnance sur les médias français, qui est publiée par Stock, filiale à 100% du groupe Hachette, je me dis qu'il y a peut-être une recherche de cohérence à laquelle on devrait tous s'atteler. Voilà.
N'hésitez pas à vous manifester. Moi, j'apporterai juste un complément à ce que vous venez de dire, parce que je travaille dans le secteur culturel. Ce qui est à l'œuvre dans le champ des médias, dans le champ de l'édition, est aussi à l'œuvre dans la culture, et notamment dans l'industrie musicale, avec des multinationales de l'entertainment comme Live Nation, AEG, qui rachètent des festivals indépendants, voilà, qui, avec ce principe aussi d'être présent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de voilà, la production d'artistes au ticketing, et que ça a des effets aussi indéniablement sur la diversité culturelle, sur l'accompagnement de l'émergence, voilà. Mais est-ce que je disais ça pour meubler en espérant peut-être qu'il y ait des mains qui se lèvent, mais sinon Sophie, on peut voilà essayer de répondre à des éléments de bon, apporter des éléments de réponse.
C'était plus des remarques que des questions que vous aviez. Je suis d'accord avec vous. Je pense que la députée a essayé de répondre en disant voilà quels étaient les projets en cours. Moi, je ne suis pas spécialiste de la concentration des médias, donc je ne peux pas vous dire plus que ce qu'elle a apporté. Après, le constat, je fais le même que le vôtre. Je travaillais sur la corruption, et notamment au niveau international. Et quand j'ai pensé à écrire ce livre, j'avais beaucoup d'exemples au niveau international et européen, mais je ne m'attendais pas en fait, à la quantité d'exemples qu'il y a en France. Et du coup, la France a pris une ampleur dans mon livre. Les exemples ont pris une ampleur plus importante que ce que je pensais au départ, parce qu'en fait, le changement, il est là, mais comme il s'étale sur plusieurs années, ça fait une dizaine d'années qu'en fait, tout est en train de reculer. Et mais comme au quotidien, en fait, ça ne nous impacte pas, on ne le ressent pas tout de suite, bah, c'est ça, c'est qu'on est en train de brûler, mais sans se rendre compte. Et le constat que vous faites, bah, je suis d'accord, mais je peux pas, voilà, j'ai pas plus de position qu'est-ce qu'elle a fait, à part redire que le collectif, c'est très important. On a parlé, vous avez parlé du Fonds pour une presse libre, moi je voudrais parler de COP Média, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est une coopérative qui s'est créée, qui rassemble des médias indépendants, je pense qu'il y en a une vingtaine, peut-être même plus. En fait, on peut tous devenir sociétaires de COP Média, et l'idée c'est de renforcer d'un point de vue économique les médias indépendants. Il y aura en 2026 la maison des médias indépendants qui va s'ouvrir, donc pour la maison des médias libres qui va s'ouvrir et qui permettra aussi du coup aux médias d'avoir un local à un prix plus accessible.
Cette maison des médias libres, elle est portée par, enfin financée par Olivier Legrain, qui est un des rares multimillionnaires de gauche, parce qu'on a beaucoup parlé des milliardaires, plutôt de droite, et qui a sorti un livre aussi récemment qui s'appelle Sauver l'information des milliardaires, voilà.
Et d'ailleurs, qui dans ce livre qui est très bien, qui mentionne qu'il ne faut pas qu'on attende de milliardaires de gauche, et que lui, quand il avait eu ce projet de maison des médias libres, il allait chercher des investisseurs et qu'en fait, il n'en a pas trouvé. Donc finalement, il a monté ce projet seul, et que du coup, en fait, l'action doit provenir aussi de nous en tant que citoyens, en travaillant en collectif. En collectif, on a l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Le Fonds pour une presse libre, là, vient de lancer le fonds Riposte, en partenariat avec une ONG qui s'appelle Media Defense et qui vient de lancer une campagne de financement participatif. Ils veulent lever 100 000 euros. Et cet argent, en fait, ces fonds aideront à financer la défense des médias indépendants en France quand ils font l'objet de poursuites Bayon. On peut parler de Forbidden Stories, qui reprend une ONG donc, qui est basée à Paris, qui reprend le travail des journalistes quand ils sont attaqués. Voilà, les journalistes travaillent beaucoup.
Ils l'ont fait, par exemple, parce que vous avez cité la journaliste maltaise,
oui,
qui effectivement a été assassinée alors qu'elle enquêtait sur des faits de corruption, enfin présumés de corruption au sommet de l'État. Et les journalistes de Forbidden Stories ont repris cette enquête et ont attesté en fait, voilà, ces faits de corruption. Ce qui est aussi, voilà, et donc partout où les journalistes sont empêchés, muselé, parfois tétanisé par des problématiques aussi économiques ou autres, voire assassiné, ce collectif, et je trouve que c'est une initiative hyper intéressante, se propose de reprendre, de poursuivre leur travail.
Oui, avec le slogan « Tuer le messager ne tuera pas le message ». Donc, comme ça, pour essayer de protéger, en fait, puisqu'on le disait, il y a plein de journalistes qui travaillent seuls en indépendant. Ils sont forcément dans une position plus fragile que s'ils sont au sein d'une rédaction. Et on a des pays où le métier de journaliste est encore plus dangereux que la France. Donc, c'est un collectif très, très important. Après, on a aussi plein d'actions au niveau des associations, comme l'Observatoire des libertés associatives. Enfin, il y a un foisonnement en France, en fait. On voit des actions. Là, aujourd'hui, on est le samedi 11. Voilà, les associations se mobilisent aujourd'hui parce qu'elles font l'objet de différentes entraves. Et donc, essayer de soutenir, de mobiliser et d'avoir les citoyens qui se mobilisent pour défendre les associations aussi.
C'est pas une question parce que je n'ai pas les compétences que vous avez. Je vous remercie de tous ces éclairages magnifiques et surtout de votre dynamisme. Je voulais revenir quand même sur ce qu'a dit le monsieur dont j'ai pas le nom, éditeur, parce que ça me paraît quand même important. Moi, j'ai assisté à la destruction de l'hôpital, qui est aussi un hôpital public qu'on défendait, pardon. Et le problème de la corruption, parce que c'est une façon d'être corrompu, que j'attaque pas les personnes, mais c'est-à-dire que la pollution mentale par l'idéologie qui s'est banalisée, elle est quand même terrible, parce que moi, ce que j'ai vu à l'hôpital, et je pense que ça s'est répandu beaucoup, c'est-à-dire l'incapacité des gens de réagir dans une espèce de banalisation, les médecins, enfin bon. Et on a vu comme ça se détruire l'hôpital, c'est-à-dire se détruire aussi nos pratiques, hein, ça va plus loin que des directives économiques, sans que personne ne dise rien, à l'intérieur même de l'hôpital. Le combat est venu, les cris est venu 20 ans après. Et je pense qu'effectivement, cette alerte comme ça de nous faire prendre conscience de notre corruption interne qui peut très vite se faire en allant chez Amazon ou en acceptant l'argent de Bolloré pour se faire éditer. C'est-à-dire que c'est important d'en prendre conscience parce que ça nous permet de mettre la marque du combat que vous nous avez éclairé sur justement comment lutter non pas contre les personnes comme nous tous qui pourrions être corrompus depuis longtemps dans nos pratiques, mais de mettre l'accent sur justement la défense des organisateurs symboliques, juridiques, institutionnels, qui ne fonctionnent plus, qui sont aussi pris dans une lâcheté, l'ARCOM, ou bon, tout un tas de choses, comme à l'hôpital, j'ai vu qu'effectivement, ne réagissaient plus les corps médicaux, les garants de nos professions, nous faisaient remplir des fiches pour faire plaisir aux laboratoires américains, qui était une façon d'attaquer notre propre travail. Et que effectivement, les instances symboliques, si elles ne sont pas soutenues au niveau politique, c'est dramatique parce que nous sommes corrompus de fait d'avaler une espèce de pollution idéologique. Je voulais avoir votre... Enfin, je trouvais que cette remarque était loin d'être banale et pas moralisatrice, qu'elle permet de faire prendre conscience qu'on s'est laissé aussi complètement comme le complice et son pervers. Hein, quelque chose comme on a fermé les yeux et on n'a pas réagi. Donc l'important, ce n'est pas de se combattre entre nous, c'est effectivement de soutenir. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous en remercie, toute cette discussion, que c'est vraiment les garants institutionnels forts avec des décisions politiques. C'est là-dessus qu'il faut mettre la barrière haute.
Moi, je voulais apporter aussi un élément. Alors, le monsieur est parti, mais parce qu'il a interpellé aussi le soutien qui est apporté à la presse. Et c'est vrai que dans tous les débats qui ont lieu, il y a quand même un enjeu aussi de repenser les aides à la presse, parce qu'en fait, elles existent, hein, elles sont assez conséquentes. Et quand on doit souvent intervenir à budget constant, il faut peut-être aussi commencer par là. Et elle bénéficie à 90% à des groupes déjà constitués et quasiment pas aux médias indépendants. Il y a beaucoup de choses aussi qui doivent évoluer parce que la presse en ligne n'est pas prise en compte. C'est un système qui est quand même encore largement obsolète, comme l'est la loi de 1986, parce qu'elle date d'avant les médias en ligne, d'avant tous ces nombreux bouleversements qu'a connu le paysage de l'information en France. Donc c'est aussi c'est un chantier à ouvrir. Voilà, il faut avoir le courage de l'ouvrir parce que ça veut dire remettre en cause des... c'est un peu difficile d'utiliser cette expression, mais pas des rentes de situation, mais enfin des... c'est des subventions qui tombent qui ne sont plus conditionnées à rien. Voilà. Il y a des projets aussi pour que, imaginer qu'elles puissent être conditionnées à minima quand même au respect, c'est-à-dire un média qui a été condamné pour... rapporté aussi des propos racistes, etc., ne puisse plus bénéficier de ces aides. Pourquoi pas les conditionner aussi à ça fait partie des nombreuses pistes qui sont portées aussi par les organisations professionnelles et syndicales, en plus des législateurs, mais ils s'en inspirent. Les conditionner aussi à un droit d'agrément, c'est-à-dire conditionner ces aides à la presse aux médias qui acceptent aussi que l'actionnaire ne soit pas imposé, mais puisse être agréé par les rédactions. Ça fait partie aussi des pistes sur lesquelles le chantier est ouvert. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que sinon, j'aurais bien posé une dernière question, peut-être. Ah non, allez-y.
Oui, non, juste un commentaire sur d'autres initiatives que j'ai oublié de mentionner. Et donc, pour nous, à titre individuel, sur comment on peut agir, là, va être lancé. Il y a plusieurs médias qui se sont mis ensemble, notamment avec Street Press, pour proposer un abonnement unique, à peu près entre 15 et 20 euros. Je ne me rappelle plus le prix. C'est la presse libre. Ça va être lancé dans les prochains jours, qui permet, en fait, avec ce prix, d'accéder à plein de médias indépendants, donc ils mutualisent là la cotisation. Et puis il y a un autre projet qui va être lancé les prochaines semaines, c'est un portail des médias indépendants. Et là, l'idée, c'est de, en fait, en termes d'actualité, qu'on mette en avant l'actualité, les enquêtes menées par les médias indépendants, plutôt que ce qu'on trouve toujours les grands médias. Donc ça aussi, nous, à titre individuel, en fait, on peut aller vers ces initiatives là pour soutenir la presse indépendante.
Et il y a tout ce qui relève effectivement aussi du champ de l'éducation aux médias et à l'information, qui malheureusement, en fait, c'est un sujet qui a été inscrit dans les nouveaux programmes scolaires en 2024. Voilà, mais qui est donc, et notamment qui est totalement lié aussi à ce qu'on appelle l'EMC, l'éducation morale et civique. Donc normalement, vraiment, dans le cursus scolaire, normalement, les élèves et les collégiens, lycéens, doivent exposer, en tout cas avoir des cours d'éducation aux médias et à l'information, et notamment aussi peut-être être sensibilisés à ces enjeux, et notamment avoir peut-être découvrir davantage aussi la diversité du paysage des médias indépendants. Je pense qu'on va pas assez loin dans ce domaine, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même sur lequel on a avancé. Ce qui manque, c'est les moyens. Voilà, toujours, mais...
Oui, moi je voulais insister aussi sur ce fait. Effectivement, les journalistes se sont réunis aussi selon leurs capacités. Enfin, tous ceux qui avaient, par exemple, les journalistes scientifiques, les journalistes économiques, les journalistes de l'environnement, on est réunis au sein d'associations et on fait aussi de la formation, parce que c'est vrai qu'il y a une masse de journalistes qui sortent de l'école de journalisme, qui ne sont absolument pas formés aux grands problèmes qui se posent aujourd'hui. Et j'ai un peu envie de rapprocher aussi de la responsabilité des journalistes. À la première table ronde à laquelle j'ai assisté, on a parlé du devoir de réserve des fonctionnaires qui commençaient à être aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai connu des grands responsables administratifs au ministère de l'Environnement qui défendaient les lois qu'ils proposaient, des Serge Antoine, des Hopneau, etc., étaient des grands administrateurs. Aujourd'hui, on est un peu dans l'incapacité de dire qui dirige ces grands services. Eh bien, les journalistes, c'est un peu pareil. Les journalistes sont une espèce de droit de réserve aussi, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'expression, on est en très peu maintenant à essayer de défendre justement les combats dont vous parliez. Et tout ce que vous avez expliqué sur les trucs Bayon, etc. Enfin, on emporte tous aussi les stigmates. Hein, et je pense que les journalistes, on a parlé de la responsabilité collective du citoyen qui absorbe l'information. Mais on a aussi une responsabilité en tant que journaliste de silence dont vous avez aussi évoqué, et je voudrais insister là-dessus. Donc notre formation en tant que... Nous, on forme des journalistes aussi. Il n'y a pas que les enfants qu'il faut former aux médias. Il faut aussi reformer les journalistes qui n'ont pas, dans les écoles, appris ce qu'il fallait apprendre.
Non, mais l'éducation aux médias ne concerne pas que les enfants et les scolaires. J'ai parlé dans le contexte scolaire, mais elle doit aussi concerner tous les citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je propose faute aussi d'intervenantes, qu'on en reste là. Moi, j'avais encore plein de questions, peut-être plus, mais on rentrerait aussi dans des... On n'a pas abordé la Hongrie et les agents de l'étranger, la loi sur les agents de l'étranger. Mais bon, merci beaucoup, Sophie Lemaître. à nouveau toutes nos excuses puisque et Pierre Jacquemin et Laure Nouala finalement n'ont pas pu venir pour des raisons diverses. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé quand même que et Sophie Taillé-Polian et Sophie Lemaître avaient apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et d'éclairages sur cet enjeu. Merci à tous. Et puis, ben voilà, les rencontres se poursuivent jusqu'à demain. Donc, bonne rencontre, bon débat. Et puis, en plus, il sera possible de réécouter aussi cet échange. Merci à tous et à toutes.